ce soir dans le service après-vente de la F1.
HRT et Marussia lancent enfin leur monoplace.
Hamilton remplacera-t-il Schumi chez Mercedes?
Valence peut-il sauter du calendrier?
Rubens va en IndyCar?
Mika Salo fait son retour.
Grosjean et Lotus s'illustrent à Barcelone.
De la Rosa prend la tête du GPDA?
Red Bull sort les parapluies.
Et Ferrari se fait du souci.
Bienvenue sur le SAV de la F1 et sur fanf1.com pour cette première émission régulière de la saison en compagnie de Shinji.
Bonjour.
Ouais.
Mais surtout en compagnie de nos deux chroniqueurs, enfin deux de nos quatre chroniqueurs. Je cite Fab. Ouais.
Ouais. Non, c'était mon hommage, double hommage à Ferrari. Hein, Ferrari. Et bien sûr, à Jean Dujardin.
Là, j'arrête cette émission. Et de l'autre côté, nous avons Steph Core, hein, notre deuxième des quatre chroniqueurs, sachant que vous en découvrirez deux autres la semaine prochaine.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah, enchanté d'être là.
Bah, écoute, hein, il y avait la lumière, on t'a laissé rentrer. Hein.
Vous êtes gentil, ouais, c'est sympa.
Ouais, peut-être moi.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette aventure hebdomadaire du SAV.
Bah, merci de nous payer déjà.
Vous savez, je te dis, c'est bien dit qu'on avait bien fait d'investir dans des Smarties.
Vous avez su me convaincre.
Alors messieurs, l'émission aujourd'hui va être consacrée exclusivement à l'actu, puisque vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu de Grand Prix le week-end dernier.
Ah oui, j'ai cherché.
Non.
Rien, que dalle. Rien.
Même si certains de nos chroniqueurs font des rêves, mais j'en dirai pas plus. On en parlera la semaine prochaine, n'est-ce pas, Gus? Vous lui demanderez qu'il vous raconte. N'hésitez pas à envoyer une question sur le répondeur du SAV pour qu'il vous raconte son rêve. Ça risque d'être esquis. Donc, on va parler d'actu, mais avant de parler d'actu, on va se foutre sur la gueule, les mecs. Parce que cette année, on a décidé qu'on allait se foutre sur la gueule.
Ah, faut rappeler qui sont les patrons.
Bref, est-ce que c'est nécessaire, je te dis?
Ah,
ouais, c'est nécessaire.
On a proposé l'idée d'un concours chroniqueur-animateur. Enfin, c'est ridicule, parce que tout le monde sait très bien qui va gagner. Enfin,
ouais. Carrément.
Mais bon, s'il faut se plier à cette mascarade, moi j'accepte. Alors messieurs, nous allons donc nous affronter deux fois durant cette émission à travers des questions, hein, donc dans un concours chroniqueur-animateur qui se déroulera tout au long de la saison, on comptera des points. Le principe de ce concours est relativement simple, hein, pour ceux qui connaissent le SAV depuis quelques années maintenant. Ce sera des questions de type questions actus ou chiffres inutiles, ayant cette fois-ci tout un lien avec la F1 qui nous permettra de revenir soit sur une actu, soit sur une statistique, soit sur un fait historique, soit sur quelque chose d'insolite, enfin voilà, quelque chose qui a un rapport avec la F1. Nous allons en faire une tout de suite, nous allons parler de l'actu et nous reviendrons en fin d'émission pour la revanche. Hein. Voilà, la règle est simple, nous avons 5 minutes pour répondre à la question. Si l'équipe qui doit répondre à la question ne répond pas dans les 5 minutes, eh ben, elle marque 0 points, mais ceux qui posent la question marquent 1 point. Si elle répond, l'équipe qui devait répondre marque 2 points. C'est super. J'adore quand j'explique les règles, c'est qu'après on n'épiche plus rien.
Même
moi, j'épiche plus rien.
Si, c'était très clair pour une fois.
Ah, oh, merci. Donc, messieurs, qui commence? J'ai envie de dire, Shinji, si tu le permets, priorité au chroniqueur.
Bien sûr, honneur au futur vaincu.
Bah, moi, je vais commencer par un chiffre inutile. Et mon chiffre est 1949.
Date de naissance?
Non.
Est-ce que c'est une date, en général?
Oui, c'est une date.
C'est la date de création, quelque chose?
Non, aucunement de...
C'est la date de fin façon. Quelque chose de
Non, non plus.
Il s'est rien passé en 49, en fait.
Si, c'est passé quelque chose de relativement important, non. On pourrait même dire que c'est anecdotique, mais ça concerne la F1.
Attends, en 49, ça concerne la F1, ça m'a l'air, ça fait dit. Est-ce que c'est un rapport avec quelqu'un qui est aujourd'hui impliqué en Formule 1?
Oui.
Bernie Ecclestone?
Oui.
Mais ça n'a pas de rapport avec une course qui aurait eu lieu en 49?
En l'occurrence, ce que disait Dino, oui, ça concerne Bernie Ecclestone. Et en l'occurrence, oui. Shinji a aussi raison, ouais, ça concerne une course automobile.
Premier départ en Grand Prix, Bernie Ecclestone.
En Grand Prix?
Ouais. Enfin, pas en Grand Prix de F1, mais en Grand Prix en général.
Exactement. Ah, purée, ça aurait duré même pas 1 minute 30.
C'est le début, calmons-nous.
On vient de gagner 2 points.
Bah c'est pareil, on a fait plutôt léger parce que connaissant le niveau, on a voulu faire une montée en force pour plus tard. Mais ouais, la réponse est celle-ci, c'est qu'il faut savoir que Bernie, qui a quand même 80 ans, a commencé la course automobile en 1949. Et pour l'anecdote, il a d'abord été pilote automobile en Formule 3 de 500 cm3. Puis, en 1958, il a acheté des monoplaces de l'écurie F1 Connaught et qui se retirait du championnat du monde. Il s'est inscrit au GP de Monaco sur ce modèle C, mais il n'arrivera même pas à réaliser un seul temps de qualification honorable. Et il n'a pas pu courir. Il a participé également au Grand Prix de Grande-Bretagne l'année dernière, mais en tant que pilote d'essai. Et juste après ce Grand Prix de Grande-Bretagne, il décida de mettre fin à sa carrière et de devenir agent immobilier, de faire fortune dans l'immobilier avant de revenir. Voilà. Mais il s'est quand même essayé. Ça a été vraiment chaotique, ouais, ridicule au final.
Tu vas avoir des problèmes.
Mais fiche-toi, on a des pressions dans cette émission. Hein.
C'est ta dernière émission, Serco.
Désolé.
Mais ça, ça va, ouais, que quand même, il a essayé. Je sais même pas combien de coussins il avait sous les sièges pour avoir la tête qui dépasse du volant, mais ça devait être drôle à voir.
Mais c'est pour ça qu'il a plus de cheveux, en fait. À cause du vent, ça allait trop vite. Ça arrachait les cheveux les uns après les autres.
Au moins, sans avoir de titre, il a quand même obtenu le pouvoir au sein de la F1. Et au moins de réussir à ce que celle-ci ait une aura vraiment internationale. Mais bon, ça serait bien que désormais il laisse la place, quoi.
Bah, c'est dur parce que son successeur, il est parti.
Oui.
Il nous enterrera tous.
Le mec qu'on connaissait même pas, tu sais. C'est comme le successeur de Poutine, personne ne le connaît. Hein, de toute façon, on n'a pas besoin d'un
parce qu'il n'existe pas.
Il n'y a pas de successeur à Poutine.
Ah oui, son successeur, c'est son prédécesseur, en fait, à Poutine.
Fais gaffe, avoir des problèmes.
Oui, là, je crois que...
Oh, on s'est fâché avec Bernie, maintenant, on risque plus rien. On peut se fâcher avec n'importe qui. Hein.
Enfin, moi, je bois plus rien, juste qu'un petit moment.
Même pas de la vodka. Ah, c'est Kimi qui va être...
Oh, surtout pas la vodka, je veux dire.
Bon, ça nous fait deux points.
Ah non, félicitations à vous. Ouais, c'est bien trouvé. Non, là, c'est... Oh. Ouais, c'était assez simple.
On va vous autoriser tout à l'heure à essayer de prendre votre revanche. Mais en tout cas, vous gagnez. Si, tu sais, franchement, là, je crois que ça y est, c'est mort. Je crois que voilà, là, on a déjà gagné. Je crois qu'on peut déjà savourer, tu vois.
Ouais.
On n'a même pas eu besoin de cacher notre jeu.
Avec le vice que vous avez dans la peau, ouais, je doute qu'on arrive à trouver la réponse. Mais j'attends de voir tout de même.
Ouf. Rien ne sert de courir.
Ouais. On vous aura.
Eh ben, nous, on est parti à point.
Ouais, allez.
On passe aux actus alors, messieurs.
Oui, mais il n'y a pas la revanche. Vous,
on la fera
vous,
après.
Vous nous posez pas une autre question pour qu'on essaie d'égaliser directement. Ouais, d'accord, je comprends. Vous voulez rester sur un sentiment de victoire pour le reste de l'émission jusqu'à avant qu'on vous achève à la fin. D'accord.
D'accord. T'as tout compris.
Exactement. Non, je pensais. Pour ça, nous, on avait préparé un lot.
Hein. Oh, nous, on en a plusieurs, je veux dire.
Nous aussi, on en a plusieurs.
Donc, nous, ça ne nous dérange pas. À la limite, c'est si vous voulez que tout de suite, on vous enfonce le clou. Nous, on veut bien.
Calme-toi.
T'enflamme pas. On en a vu partir comme ça, partir en vrille en deux.
Si, est-ce qu'on en refait le coup? Exceptionnellement. Alors, normalement, on a prévu qu'on faisait une question par équipe.
J'en ai une.
Vas-y alors.
Qui pas trop
difficile.
En fait, j'en ai deux. J'en ai une d'enculé et puis une facile.
Ouais.
Garde celle d'enculé pour plus tard.
Voilà.
Il y a Gus et Ben la semaine prochaine, donc faut.
Gus, faut garder les questions d'enculé, hein, parce que.
Par contre,
il a l'air d'avoir du niveau, c'est clair.
Ouais.
Maintenant, je vais prendre l'habitude, hein, quand c'est eux qui nous posent des questions, il n'y a pas besoin de chronomètre, hein, les 5 minutes, on les verra jamais. Par contre, eux, on va les mettre peut-être les
Oui, bien sûr.
Voilà. je devrais envoyer un MMS avec la photo du chrono.
Allez, tu peux y aller, je chronomètre.
C'est facile, hein. Franchement, elle est facile. Hein. Ça devrait même être une
question. Ne nous mets pas la pression. Hein.
Sincèrement, ça, vous ne la trouvez pas en 30 secondes.
Mais c'est presque carrément. Qui a déjà remporté la triple couronne?
Graham Hill.
Ah, je vous ai dit que c'était une facile.
On vient de perdre 15 000 auditeurs, là. Ouais. Mais c'est quoi cette émission avec des questions à 2 balles, là? J'ai dit, on vient de perdre 2 points, là. Fallait mettre.
Ah, j'avoue, elle était à chier, là, quand même.
Bah ouais, même moi, j'étais en train de chercher un double sens. J'ai dit, ils ont dû piéger la question avec la triple couronne à chercher du double sens. Mais non, il n'y avait aucune perversité.
Je m'étais dit, tu vois, que parfois, il y a des trucs extrêmement simples. Donc, faut rappeler quand même ce que c'est la triple couronne. Hein, donc, c'est... Alors, c'est un titre honorifique hein, qui comprend en fait trois épreuves. Alors, il y a deux définitions. Il y a la définition, on va dire, qui concerne que les épreuves, donc qui concernerait les 24 heures du Mans l'Indianapolis 500 et le Grand Prix de Monaco. Et puis, il y a une autre définition, en fait, qui remplace le Grand Prix de Monaco par le championnat du monde de F1. Mais bon, c'est mettre un championnat avec deux épreuves, donc c'est un peu bizarre. Et donc, en effet, le seul pilote de l'histoire à avoir réussi la triple couronne dans ces deux sens, d'ailleurs, c'est Graham Hill. Alors, il y a plein de pilotes qui ont fait 2 sur 3, hein, souvent, hein, comme Nivolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren, Rindt, Edgy Foyt ou Fittipaldi. Il faut savoir que les deux pilotes les plus proches de l'avoir, parce qu'il n'y en a que deux actuellement, c'est des cadors du sport automobile, puisque c'est Montoya qui a remporté l'Indy 500 et le Grand Prix de Monaco.
Qui pète le feu en ce moment d'ailleurs, Montoya, je sais pas ce qu'il a. Mais...
Ah, il pète le feu. Vous savez quel est l'autre?
Bah Weber.
Ah non.
Mais non.
Weber, il a pas gagné le...
Les... Bah Michael Schumacher.
Non plus. Attends, avoir remporté 2 sur 3?
2 sur 3, voilà.
2 sur 3? Schumi, il a pas... Alors, il a pas gagné même.
Un indice, il a gagné l'Indy 500, il a été champion du monde de F1. Hein,
ah, Gilles Villeneuve.
Jacques
Villeneuve, ouais.
Qui a pas été très loin, parce que il a fini combien-tième, Jacques Villeneuve, au Mans?
Deuxième au Mans, je crois.
Deuxième, hein.
Ouais, deuxième, ouais.
Il y en a encore pour se moquer de lui. Ah. Je les entends, là, derrière.
Jacques Villeneuve, c'est de la merde. Jacques Villeneuve, il est trop grand dans sa combinaison.
C'est vrai, en plus.
C'est pour faire pipi dedans.
Bah, je veux dire, cette année, c'est Montoya qui est trop gros pour sa combi, quoi. Je sais pas si vous...
Oui, oui. Ah là là, affolant. À un moment donné, j'ai cru que c'était Tony Stewart. T'as vu comment ils ont été obligés de sortir de la voiture?
Ils ont beurré les bords.
Donc voilà, toute petite liste, alors qui est quasiment impossible à faire sur une année, hein, puisque le Grand Prix Monaco et l'Indy 500, c'est le même jour. Mais en effet, sur une carrière...
Puis les 24 heures du Mans, généralement, ça tombe pendant le Grand Prix du Canada, donc...
Oui, en plus. Voilà, petite question. C'est pour ça que, tu vois, que je vous ai mis la pression, je me suis dit, ouais, ils vont avoir la pression, ils vont pas trouver. Eh non, c'est bien.
Mais je vous apprends, moi, comment on fait des questions.
Ouais, mais après, l'autre... C'est pas grave. Là, c'était une question facile.
C'est pas grave, Ben.
Non, mais après, ça va être la surenchère.
Vous savez à quoi vous attendre.
Vous savez que j'ai l'habitude de faire des questions d'enculé. Hein.
Oh, t'inquiète, on va pas te rater non plus. Hein. Moi, j'étais gentil aussi. Hein.
Ouais.
Oui, parce qu'il y en a d'autres. Hein.
Ah ouais, il y en a d'autres. Hein.
Donc, on commence la saison sur un score de parité 2-2. Et on va passer, messieurs, à l'actu et au podium de l'actu avec un nouveau jingle. Enfin, un jingle, puisqu'il n'y en avait pas avant.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Oui, en effet, cette saison, nous avons décidé de faire des jingles culturels.
C'est un peu comme les nénés nordithorynques, c'est... Va falloir s'y habituer, mais ça sera là.
Ah, j'ai les oreilles qui saignent.
Alors, pour le podium de l'actu, alors comme l'indique le nom de cette rubrique, hein, c'est un podium, mais il y aura sans doute pas que trois actus dessus.
comme voilà, d'habitude.
Hein, faut bien respecter les traditions. Alors, avant l'émission, nous avons demandé à nos quatre chroniqueurs, et nous-mêmes nous l'avons fait, d'envoyer la liste des cinq actus qu'ils souhaitaient traiter durant cette émission. Nous avons retenu sur cette liste les actus qui étaient au moins cités trois fois. Donc sur nous six, ça fait une fois sur deux, voilà. Donc nous allons pouvoir en débattre en profondeur. Puis ensuite, les actus qui ont été citées une ou deux fois, bah celle-là, on va en débattre un peu moins en profondeur et on va essayer de trouver laquelle on n'en aura vraiment rien eu à foutre du tout. Voilà, mais ça sera pour un peu plus tard parce que d'abord, nous allons commencer avec une actu. Oh, mais quelle actu ! Une actu qui concerne le Grand Prix d'Europe qui pourrait être retirée du calendrier 2012, une actu qui était citée par Dino, par Shinji, par Gus et par Steph.
Ouais, je suis entre des larmes de joie et des larmes de joie, quoi. C'est quand même la bonne nouvelle, quoi. L'épreuve inutile qui est retirée, pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que c'était un week-end gâché. Bah, ce qui est dommage, c'est que je vais perdre une bonne sieste un dimanche après-midi.
C'est pas encore fait, hein.
On connaît l'état financier.
Voilà, on connaît tous l'état de l'économie espagnole, donc on peut avoir de l'espoir.
Donc le problème, hein, c'est que apparemment ils ont toujours pas payé les droits de cette année, je crois.
Ouais, c'est ça, oui.
Forcément, Bernie a dit, oh Ludo, ils ont pas payé. Oh, ils vont perdre leur Grand Prix. En même temps, ça nous dérange pas.
Bernie.
En même temps, c'est une anormalité qu'il y ait deux Grands Prix en Espagne. Enfin,
oh bah.
Depuis le temps,
c'est vrai que c'est pas comme s'ils jouaient un.
On n'est pas en mode.
Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas comme s'ils avaient un pilote espagnol qui brillait en ce moment, quoi. Enfin.
Bah non, il brille pas. Oui, c'est bien ça.
Ça sert à rien que les spectateurs ils achètent un billet pour voir Alonso finir devant les HRT. Enfin, en quoi que c'est pas sûr. On n'a pas encore vu rouler la HRT.
Oui, tiens,
d'ailleurs. Non, c'est vraiment une bonne chose que personne peut dire qu'il a trouvé un seul intérêt au Grand Prix à Valence, quoi.
Marc Weber a trouvé un intérêt.
DHL, ça fait de la promo gratuite.
DHL a fait une pub d'enfer.
Non, moi j'aime bien ce Grand Prix.
Dino, c'est pas parce que tu réussis sur un Grand Prix sur F1 2012, hein, tu dois forcément être bien en vrai.
Oui, mais en même temps, voilà, il se trouve que généralement, c'est vrai.
Bah oui, non, mais si tu te mets en mode invincible et que tu fais le guide via les murs, quoi, ça doit pas être bien, bien compliqué de réussir un bon tour.
Mais... Non, mais voilà, bah, non, c'est vrai que c'est parfois chiant. Mais par exemple, l'an dernier, on n'a pas eu une course attends, l'an dernier, il s'est passé.
Si, l'an dernier, elle était bien chiante.
Et l'année d'avant, elle était chiante aussi ou pas?
L'année d'avant, moins.
Et l'année d'avant, non, l'année d'avant encore, c'était les deux premières années, c'était pourri.
Je suis en train de réfléchir à quel moment je me suis réveillé. Ça devait être la pub, on devait arriver sur le tiercé, je sais plus, mais. Mais ouais, non, sur le Grand Prix d'Europe, ouais, je vois les 5-6 premiers tours, mais sincèrement, ensuite, c'est vraiment l'épreuve du calendrier qui m'intéresse quasiment pas. Je regarde parce que, voilà, il y a vraiment une corrélation avec le championnat et c'est toujours à voir. Mais sur l'intérêt, le cadre, mais voir des blocs de béton,
c'est, ouais, c'est une pub pour Bouygues. Oui, c'est un port. Oui, mais bon, il y a des beaux ports.
Il y a Monaco et Le Havre, quoi. Et
voilà, ouais, c'est ça.
Monaco et Le Havre. Les deux, il y a Valence.
Voilà. Le soleil en plus pour Valence, mais autrement, le cadre, c'est pareil. Des murs de béton tout le long.
Non, ils sont jolis, les murs, voilà. Ils sont colorés.
Ah ouais.
Ils ont mis des murs colorés.
Ah oui.
Vous êtes non, mais moi, sincèrement, je trouve qu'on critique beaucoup le décor et même les courses à Valence. À Singapour, elles sont pas mieux, quoi. Enfin, le décor à Singapour, c'est joli parce que, voilà, c'est les gratte-ciels, les hôtels à cause de la nuit, il y a de la lumière, c'est joli. Mais en dehors de ça, c'est pas non plus exceptionnel. Moi, je suis persuadé que Valence, avec les grues qu'il y a derrière dans le port, s'il y avait des petites lumières sur les grues et qu'on faisait ça de nuit, ça serait super chouette, quoi. On aurait un super décor.
Oui, mais ils le font pas.
Oui, non, mais, voilà. Non, mais parce ils que, le parce font que pas. Ça, sinon, ça passerait le soir à 18h. Même pas 18h, à 20h. Alors, tu fais un Grand Prix de Valence en prime time. Et là, t'as facilement 12-13 téléspectateurs.
Non, c'est vrai que, comme tu disais, ouais, s'il y avait des aménagements pour avoir une course de nuit, ça pourrait être plus agréable à l'œil. Mais sur l'intérêt de la course en elle-même, je te dis, sincèrement, ouais, y a pas de fait marquant qui m'est vraiment, que je trouve mémorable et que je garderai en souvenir sur Valence, hein.
Ah si, y en a un.
Ouais. Ouais, un seul, ouais.
Voilà. Théoriquement, maintenant, c'est plus possible. Théoriquement.
Oui.
Ouais.
À quel prix?
Enfin, je sais pas lequel va essayer de démontrer le contraire.
Votre règlement, c'est de la merde, je vais vous le prouver. Il est où, Kovalainen? Montrez-le-moi. Je veux voir.
Retenez-moi.
Alors, sinon, ils sont aussi en discussion, apparemment, pour... ce qui peut être potentiellement une bonne nouvelle, hein, pour être en alterné avec Barcelone.
Oh bah oui,
ça sera bien. Ça, on verra aussi Barcelone une seule fois tous les deux ans. On aura une année une course chiante en ville et une année une course chiante sur un circuit.
C'est un très bon compromis.
C'est le désagréable.
Après, ouais, Barcelone, ça reste bien, ouais, sur un plan visuel, sur quand on l'a vraiment, comment dire, vu cockpit.
C'est un super circuit.
Ouais, sur la course en elle-même. C'est un super circuit, ça là-dessus.
Malheureusement, les courses, ils sont pas top.
Bah, une piste un peu plus large ou quelques petites modifications sur les freinages, mais ah, c'est ennuyeux. Après, ouais, c'est vrai que quand on a les vues intérieures sur Barcelone et ça reste tout de même, ouais, une belle course. Après, je sais pas, vous, ça vous émeut vraiment le départ du Grand Prix d'Europe?
Je sais pas, on a été le droit de mettre. Y a que ça, t'as pas le droit de pleurer.
Arrêtez, laissez-moi tranquille.
Moi, je l'ai mis pour le fêter, hein. Pas pour le pleurer. Hein.
Mais bah, pareil.
Bah, moi, je l'ai pas mis pour ne pas le fêter.
Ouais, j'ai envie d'être un peu triste, genre, non. Non, mais derrière, il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Grand Prix qui est menacé parce que le pays rencontre des difficultés financières avec Bernie Ecclestone. Il a pas envie de s'asseoir sur son argent. Par contre, il y a un Grand Prix, genre, je sais pas, Bahreïn, par exemple, hein, où il y a des révoltes, où il y a eu des répressions. Et ça, Bernie dit, non, on va y aller.
Supprimons-le aussi.
Moi, je veux les deux, moi.
Non, mais Bernie, lui, il a qu'un seul mode de pensée, c'est, ouais, c'est bête à dire, mais c'est argent.
Oui, mais moi, j'avais de l'espoir et maintenant, je le perds.
Et il trouvera toujours des excuses bidons pour se rendre à Bahreïn ou autre en disant que voilà, faut redonner l'espoir au peuple, c'est que le sport doit venir à Bahreïn pour redonner de l'espoir et montrer au monde à faire découvrir le pays. Et si tu veux pas être touché ou autre par leurs décisions, faut avoir un mode de pensée cynique et de se dire que là où il y a de l'argent, on va, et là où il y en a peu ou il y en a plus, bah on oublie, hein. Regarde la Belgique.
Oh, c'est pas grave, c'est la Belgique. Ils ont un gouvernement, ils vont pas avoir en plus un Grand Prix, quoi. Ouais.
Enfin, sur le cas de Bahreïn, il n'y a pas que Ecclestone qui est en cause, parce que finalement, les autorités bahreïnies, ça les arrangerait bien, en quelque sorte, qu'il y ait... Enfin, que le Grand Prix se court, ça serait un moyen de dire, vous voyez, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, on peut courir une course de voiture, donc on peut vraiment faire n'importe quoi chez nous.
Voilà. La preuve, on tue des gens.
Mais...
Venez.
Alors, messieurs, actu suivante. Et nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de Rubens Barrichello. Qui disparaît intégralement de la saison 2012 d'IndyCar, une actu choisie par nos quatre chroniqueurs, Ben, Gus, Fab et Steph. Nous, chez G, on en a rien à foutre. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on en a parlé lors du 2012.
Voilà, donc, c'est pour ça. Hésiter.
D'ailleurs, je voudrais saluer quand même le lauréat d'un prix prestigieux acquis dans l'adversité, surtout de Pilot, surtout, et qui va étrenner donc, sous les yeux ébahis des fans américains ce prestigieux SAV d'or. Ouais. Salut l'artiste.
Ah, il pourra les traîner parce qu'il va pouvoir tourner en rond parce qu'ils ont convaincu. Là, ouais. C'est comme ça la nouvelle depuis la semaine dernière. Ils ont convaincu sa femme.
Oui, ouais.
Oui. Avec l'aide de ses enfants. C'est des enfants qui ont été à croire. Oh, la belle histoire. Et Hollywood va en faire un film. Hein. Ça serait pas étonnant, mais d'avoir réussi à le convaincre. Mais c'est une belle chose parce que. Comment dire, ça prouve que même pour le niveau de la F1, même pour un ancien pilote qui voilà avait quand même un peu plus de difficultés, ça montre que ouais le niveau est vraiment correct parce que même son coéquipier contre qui lors des premiers essais était époustouflé du niveau qu'il a mis dès les premiers essais quoi.
Il a fait le premier temps, je crois, le premier jour, et puis après, dans la deuxième semaine d'essai qu'il a fait à Sonoma, il était à 9 dixièmes de, je crois que c'est Scott Dixon, qui est l'un des favoris du titre.
Ouais, Scott Dixon, ouais.
Fab, commentaire?
Non, moi je trouve que c'est une bonne chose, bon, pour lui, déjà. Bon, pour sa femme, je sais pas trop, en fait. mais je crois que le plus dégueulasse, c'est quand même de demander à ses enfants d'essayer de convaincre sa
oui,
femme.
Oui, moi je suis d'accord, ça. Tout le monde a trouvé sa vache.
On va pas rentrer dans ces détails.
Voilà, enfin, clairement, tu fais pas tes codes dans ces trucs. Non, mais je me suis dit, attends, imagine, je touche du bois, hein, mais imagine, ils se tuent en course, le drame, ça va être pour les gamins, quoi. C'est eux qui ont
assisté
pour la mère. Non, mais voilà, enfin, on sort quand même la dernière course d'IndyCar qu'il y a eu, quand même un mec qui est mort, il y a quand même eu 15 voitures impliquées, il y a eu, je crois que c'est une pilote belge, je crois, ou anglaise qui a dû être opérée et compagnie. Voilà, donc c'est quand même une formule de monoplace qui est quand même très dangereuse. Et là, les enfants, allez, on va dire à maman que papa, il peut aller courir. Et les gamins, toute leur vie, ils vont dire, mon Dieu, on a fait ça à notre père. Non, mais c'est incroyable.
Vous avez tué votre
puis la
père.
Mère, alors, dira, hein, allez voir votre père maintenant, lui demander si le père est une
oh là là.
Non, mais après, c'est le risque dans tout sport, mais c'est... Non, moi, je trouve ça bien, même la position des enfants. Bah, même, comme tu dis, s'il y a un risque d'accident, mais c'est dans tous les sports, mais... Non, et je trouvais ça flatteur pour la F1 de se dire que un pilote qui, en fin de carrière, peut arriver dans le sport automobile américain et réussir quand même à cartonner des temps plus que corrects, à impressionner tout le monde. Ce qui prouve que la F1 garde quand même un bon niveau. Je dis pas que dans les sports automobiles américains, il n'y ait pas de super grands pilotes, il y en a des excellents. Peu ont réussi à faire de belles démonstrations en F1. Mais là, ouais, c'est une... peut-être que ça relancera quand même un petit peu quelque intérêt pour les Américains à jeter un coup d'œil sur la F1 en se disant, bah tiens, tout compte fait... Il y a du vrai talent et ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. En plus, désormais, comme il n'y a plus Valence, encore une chance qu'il tombe pas sur un Grand Prix bien pourri, quoi.
Non, mais après, c'est-à-dire que là, d'accord, il a fait des essais. Maintenant, il faudra voir aussi en course. Enfin, c'est bon, c'est vrai, ah, que oui. C'est aussi ce qu'on dit, ce qu'a dit Randy Bernard, le patron de l'IndyCar, et ce qu'a dit aussi Frankie Tease. Ont dit ce qui est bien, voilà, c'est que ça fait quand même pas mal de temps. Déjà l'an dernier, il devait y avoir une épreuve où il voulait faire venir les pilotes de F1 pour montrer que les pilotes d'IndyCar étaient les meilleurs et compagnie.
La... Las Vegas.
Voilà. Voilà. Que finalement, oui, en plus, super, ça a fini, c'est Dan Weldon qui a accepté le challenge en partant dernier de gagner. Il avait 1 million, je sais plus, ou 5 millions de dollars. Mais donc oui, après, c'est ce qu'ils disaient eux, que c'est bien, ça va permettre de montrer face à un pilote de Formule 1 ce qu'ils valent. Maintenant, j'ai envie de dire, je veux pas être méchant, mais c'est Rubens Barrichello, il a 39 ans. Voilà, on les verra, eux, contre des pilotes du même âge. Bon, c'est peut-être pas la même chose. Enfin, oui. Voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment révélateur ou flatteur pour qui que ce soit.
À moins que Barrichello défonce.
Ah, ça serait bon. J'y crois pas, mais ça serait bon.
T'imagines le mec 20 saisons en F1, rien. Une saison en IndyCar, le titre.
Et les 500 matchs de la police. Non, après, quand même.
Non, non, ça c'est pour Jean Alési. Ça c'est pour Jean Alési.
Mais ouais, mais c'est comme tu disais, parce qu'on il y a en ce moment, je crois à peu près l'expérience, c'est avec Danica Patrick qui a réussi, comment dire, des bons temps, même le meilleur des qualifications, je crois dans la dernière épreuve. Voilà, mais elle se prend des boîtes à chaque fois, quoi.
Ça va.
Ouais, voilà. Mais elle fait 3 tours et elle se fait dégager, quoi. Après, c'est vrai que sur un tour chronométré, on peut très bien réussir. Mais après, c'est vrai que le comportement dans un peloton lancé à pleine vitesse, ça va être un drôle d'apprentissage quand même à faire. Mais je demande à voir. Parce que Barrichello, il est quand même bien chaud. Donc,
ça va me gagner. C'est pas qu'elle se fait dégager, c'est qu'elle fait 3 tours très rapides et après, elle se prend un mur.
Enfin, tu dis Barrichello, il est bien chaud, mais enfin, dans les courses en peloton sur les ovales, faudra pas qu'il se mette à ralentir pour laisser passer son coéquipier. Parce que ça sera quand même pas la même chose.
Hein. Pour... Il est où, Michael? Les gars, il est où, Michael? Qui regardait l'IndyCar ou ne le regardait pas, et qui va regarder s'il ne le regardait pas?
Ah, moi je le regarde.
C'était
je
diffusé.
Regarder, ouais. Ça sera diffusé sur Motors TV.
Ouais, cette année, ouais. Mais c'était l'an diffusé avant.
L'an dernier, alors, ils ont pas tout. C'était des différés, je crois.
Ils ont mis en direct, c'est Las Vegas.
Ouais.
Bon choix. Et les 100 miles aussi, je crois qu'ils avaient. Voilà, en direct. Par contre, cette année, oui, ça sera tout en direct.
Ouais.
De même qu'à la Nationwide sur Motors TV.
Oui. D'ailleurs, c'était chiant la dernière fois. Faut quand même
bienvenue
le dire.
Au SAV de la Nationwide. Donc, messieurs, on passe à l'actu suivante.
Oui.
Et on va passer à une actu. On va parler d'écurie lente. Donc, on va parler de l'actu qui s'intitule Alonso et Fry pensent que Ferrari va s'ouvrir en début de saison. tu peux la barrer celle-là aussi, Fab. Bon, voilà, Ferrari qui a été choisi par. Oh, dis donc, encore une fois, c'est les 4 chroniqueurs, Ben, Gus, Fab et Steph. Nous, Shinjian.
J'aurais pu.
Vous avez foutu, vous avez cherché des informations de 2011 ou quoi?
À peu près. Et là, sur Ferrari et sur Alonso, petit bilan des essais, on a appris une bonne nouvelle aujourd'hui, qui d'ailleurs a été proposée par. C'est qui a proposé ça? Par Ben, qui a proposé l'actu sur Mika Salo, qui va tester la Ferrari. La Ferrari oui. F10.
Que lui-même ne voilà, sait pas pourquoi. Sait pas pourquoi.
Quand même, Ferrari, ils ont été à 2 doigts de rappeler Alboreto. Non, il est mort, Alboreto, je crois.
Bah non, il est mort.
Non, mais ils auraient pu. Justement. C'était sur la liste. Ils ont pris Salo parce qu'ils n'ont pas réussi à joindre Alboreto, tu vois.
Là, c'est bien, Alonso et Fry confirment quelque chose que tout le monde voit, mais tout le monde sait faire. Ouais, d'accord, il ressemble à ça, mais on sait jamais.
Non,
c'est les essais.
Parce que Ferrari, ils cachent leur jeu. C'est un peu orchestré, ils cachent leur jeu. Non, mais sincèrement.
Encore une fois, il est difficile de tirer des conclusions de ces essais.
Chers lecteurs de Fan F1 qui nous avaient suivis pendant les essais, on a bien reçu toutes vos questions sur est-ce que vous pensez qu'ils cachent leur jeu? La réponse est non. Je suis fan de Ferrari, mais j'ai envie de me pendre. Alors non, ils cachent pas leur jeu.
Bah, tu vois même la déclaration aujourd'hui d'Alonso qui déclare « Il me semble que la Ferrari, durant les premiers essais, ne va pas dans la direction dans laquelle on s'attendait. Oui. » Ça veut quand même dire que quand même, on est mal barré hein, pour le début de saison. On est mal barré.
Mais ils sont pas tout seuls. Parce que là, par exemple, on a appris pour Red Bull.
Mais non, mais Red Bull, eux, ils cachent leur jeu.
Voilà, pourquoi chez Ferrari ça serait le cas et pas chez Red Bull?
Bah, New Way, je dirais la différence elle est un petit peu là quoi. Oui. Il y en a un qui va cacher à peu près et qui sait sur quelle base il va partir.
Non, il sait pas à quoi ça sert. L'ouverture dans le nez, il sait pas.
C'est pour la clim. C'est bien ce qui a été dit, c'est pour la clim. Mais là, là pour Ferrari, ouais, c'est quand même assez comique parce que même ils avaient demandé à Alonso de faire aucune déclaration et il vient remettre une couche par-dessus. Surtout, non, c'est que quand même, non, c'est ça qui est embêtant, c'est que très mal pour
samedi et dimanche, ils ont annulé les conférences de presse des pilotes. Bon, faut dire aussi que par exemple dimanche, ils l'ont annulé, mais de toute façon, quasiment toutes les équipes les ont annulées parce qu'ils avaient qu'une envie, c'était de se barrer. Voilà. Mais donc samedi ils ont annulé la conférence des pilotes, sauf que le problème c'est que Alonso le soir il va avoir le match au Camp Nou, Barça Riron, et là il est interrogé par Barça TV, il dit hop, je pense qu'on va souffrir au début, on n'est pas à 100%. Ça servait à quoi d'annuler le truc par des
Fernando, c'est pas parce que c'est Barça TV, voilà, qu'on va pas le savoir.
Non mais c'est quand même dur pour Ferrari qui souffre quand même depuis désormais plusieurs saisons. Bon, on va dire l'année dernière, ouais, heureusement qu'ils ont un pilote comme Alonso qui arrive vraiment à aller au-delà de la voiture, mais c'est quand même encore mal parti pour elle. Je me demande vraiment quel est pourquoi il n'y a pas un vrai coup de balai dans l'ingénierie de Ferrari, parce que ça fait combien d'années que ça dure désormais? 3 ans, 4 ans?
Ils ont fait venir, pour moi je pense qu'ils... Ce qu'ils ont fait cette année, pour moi, je suis très content. Enfin voilà, on leur demandait l'an dernier, on leur reprochait d'avoir été trop conservateurs. Cette année, ils ont pris des risques, ils ont été audacieux. On va pas commencer à leur reprocher. Oui. Maintenant, faut attendre que ça porte leurs fruits. Moi, j'ai pas envie de leur taper dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, je pense sincèrement que cette année, s'ils se gaufrent encore, faudra se poser des questions. Est-ce que juste virer Aldo Costa et promouvoir Pat Fry à la direction technique, ça suffisait? Alors que c'est encore Nicolas Tombazis qui fait la voiture. J'ai envie de dire, à un moment donné, il faudra effectivement qui se posent des bonnes questions. Si ça peut être fait cette année, c'est très bien. Maintenant, je pense que ils ont aussi une voiture qui pose des bases aussi pour 2013. Faut qu'ils persévèrent. Moi, je pense pas qu'il faut qu'ils reviennent sur les suspensions. Faut qu'ils persévèrent et qu'ils creusent, parce qu'il faut juste creuser.
Oui, non, mais puis surtout, enfin, voilà, on voit bien aussi, il y a ce problème de changement dans l'organigramme, des modifications successives. Enfin, une écurie, on le voit avec la réussite de Red Bull, de McLaren ou même de Ferrari dans les années 90, c'est quand même surtout une stabilité qui t'amène vers la victoire. Il y a pas de mystère. Si tu changes ton équipe, ton organigramme tous les ans, il y a aucune stabilité, il y a aucun suivi, c'est impossible. Et d'autant plus quand tu décides de changer la philosophie de ta voiture.
Faut de la stabilité et du temps, parce que aussi dans chaque cas, il a fallu forcément 2-3 ans avant que les résultats arrivent.
Ouais, tout à fait.
Et c'est le cas là, c'est-à-dire que là aujourd'hui, des nouvelles têtes qui arrivent, il y a un paquet d'ingénieurs qui sont emmenés chez McLaren, voilà, ils peuvent pas fournir des résultats tout de suite, immédiatement, c'est pas possible. Donc voilà, maintenant faut les mettre au travail, faut leur donner les moyens de travailler, faut surtout, je pense, leur foutre la paix, faudra pas faire la chasse aux sorcières.
Mais tu dis qu'on doit les laisser travailler autres, mais on peut pas, c'est Ferrari.
Non, mais
tu peux pas sur un top team comme ça.
C'est que c'est Ferrari.
C'est qu'ils ont pas le temps. Donc ils sont obligés, comment dire, d'avoir des résultats. Ils seront obligés, comment dire, de subir toute la pression, toutes les critiques possibles, au vu du fait que ouais, c'est un top team de la F1. Mais pour moi, il y a vraiment un grand coup de balai à donner, parce que même au-delà de l'organigramme qui change, il y a l'air d'y avoir vraiment des guéguerres internes sur les postes ou sur l'influence des uns et des autres qui vient pourrir totalement la conception de la voiture.
Non, mais c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui on a mis en place, par exemple, Pat Fry, qui a fait venir des gens de chez McLaren notamment, enfin beaucoup de gens chez McLaren. Le problème c'est qu'en face t'as toujours ton Tombazis qui est à la conception de la voiture, tu fais revenir Reburn, enfin voilà, il y a un mélange des genres. Tu sens, alors je sais pas s'il y a des rivalités au sein de l'équipe entre les techniciens, mais en tout cas voilà, ils sont en train de faire une restructuration. La restructuration, elle se fait pas du jour au lendemain.
Faudra que certains, ouais, laissent leur ego de côté pour pas venir, parce que quand on regarde chez Red Bull, tu as Newey, tu as le directeur du team, point barre. Non, ce que je veux dire, c'est que au sein d'un team, tu as l'ingénieur en chef, tu as le directeur du team, voilà, point barre. Comme à l'époque, tu avais Todd, tu avais derrière l'ingénieur en chef, point barre. T'entendais pas à côté toutes les petites voix de tels responsables ou d'autres qui venaient interférer au sein d'écurie. Et je trouve que chez Ferrari, justement, on entend beaucoup de petites voix à côté.
T'as Dominicali et Pat Fry, c'est les seuls qui parlent. D'ailleurs, la preuve, parce que c'est, ouais, Pat Fry a été le seul qui a été autorisé à parler dimanche. On annule la conférence des pilotes pour dire faudrait pas qu'ils disent répondre à des questions et qu'ils disent des conneries. Sauf que derrière, Pat Fry, il enfonce le clou en disant non mais on jouera pas le podium. T'allais même analyser voilà. Pat Fry quoi. Enfin...
Moi, je suis pas un grand fan de Ferrari quoi, mais bon, c'est vrai que si on doit déjà compter sur une écurie top team qui va être en régression et qui va pas jouer dès le départ. Ouais, ça nous laisse cette année. Si on en reste là sur Mercedes et Red Bull, voilà, point barre.
Après, c'est pas sûr.
Ouais, c'est pas sûr. Mais
apparemment, enfin, ce que les analyses retransmettent pour moi, c'est que la Ferrari est plutôt bonne, même très bonne sur un tour, mais qu'après c'est les pneus qui tiennent pas, que le système, que le problème des pneus serait dû en fait à leurs échappements. Avec les gros échappements qui retombent là sur le derrière, ça théoriquement ça devrait changer pour Melbourne. Donc voilà, il y a on peut très bien se retrouver. C'est vrai qu'on on a quasiment passé tous nos essais à dire rappelez-vous McLaren l'an dernier, etc. Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu plus confiance. Ah, c'est horrible ce que je vais dire. J'ai un peu plus confiance en McLaren qu'en Ferrari dans ce genre de cas.
c'est
Ferrari surréagit aussi. Enfin, quand je vois là, ils ont planté la voiture en disant non mais cette année il faut qu'on ait une voiture qui gagne parce que l'Italie en a besoin. Mais lâchez-nous la grappe avec l'Italie, on s'en branle. C'est une écurie qui porte le poids de tout un pays, et dès que ça commence à déconner, c'est sûr que t'as les médias. Bon, pour moi, je trouve que les médias sont plutôt leur foutent plutôt
gentil.
La paix. Je trouve que c'est bien. Si déjà les médias commencent un petit peu à leur foutre la paix, je trouve que voilà, pour moi, pour voir sur certains sites italiens, bon, ils en parlent beaucoup, ils se posent des questions, mais on n'est pas encore en train de chasser des têtes. J'attends la Chine, Bahreïn, hein. C'est, si à ce moment-là,
oui,
il y a
voilà.
Un podium, je pense que là, la Gazzetta va commencer à dire.
Je me suis amusé à regarder, à comparer les déclarations de Ferrari cette année et de McLaren l'année dernière. Parce que bon, je me suis dit, c'est toujours marrant de voir ce qu'ils disent, quoi, c'est sympathique. Parce que l'année dernière, on se souvient quand même, McLaren était un peu dans la position de Ferrari à ce moment de la saison, c'est-à-dire à quelques jours de Melbourne. Et t'avais Lewis Hamilton qui déclarait, alors, sur la question à savoir s'ils allaient être sur le podium, alors être dans les 5 premiers durant les 3 ou 4 premières courses, ça serait pas mal, en gros. Alors ça, c'était sur les podiums, et sur le fait que la voiture était innovante, il dit, il y a de nombreux problèmes qui ne sont pas aussi faciles à corriger que nous l'espérions. Donc il y a quand même une grande similitude dans ces déclarations.
C'est surprenant la trajectoire qui se sont croisées, quoi. L'an dernier, c'est Ferrari qui était ultra conservateur. Cette année, on a l'impression vraiment que c'est la McLaren qui est très conservatrice. Enfin, en dehors du fait, comme Ferrari, de la position des échappements qui semble devenir la norme aujourd'hui, sinon la McLaren, enfin, est plutôt conventionnelle, hein. Et c'est rigolo de voir les trajectoires croisées. À espérer maintenant que ça se passe pareil, en tout cas pour Ferrari.
Oui.
Je pense que McLaren, ils disent non, faut pas que ça se passe pareil. Donc on passe à l'actu suivante, messieurs. On va passer. Tiens, on parlait de McLaren. Soyons fous. Parlons de Lewis Hamilton, qui fait l'objet d'une nouvelle rumeur, qui l'envoie chez Mercedes à la place de Schumacher. Voilà. C'est du coup qui est content.
C'est la première de l'année.
Oui.
Oui.
Bon, on devrait être rassuré bientôt. Il a dit qu'il voulait régler ça dans les premiers grands prix.
Oui.
Ouh là là.
Ah, ça dépend aussi si Schumi signe ou pas.
Oui, mais non, mais dans Schumi, toutes les 3 semaines, on dit, il va signer. Ça y est. Et puis derrière, ça personne dit, non, pour le moment, on n'a rien à déclarer. Non, mais il va signer.
Il va signer.
Bah, et en même temps, c'est la seule place à laquelle je verrais Hamilton pouvoir changer d'écurie, quoi.
Ah,
vers laquelle il pourrait se diriger.
Ah. Il y aurait peut-être.
Il y en a une autre un petit peu plus bleutée.
Ouais, je sais pas, elle aurait peut-être plus de difficultés à s'intéresser. Le fait de partir de chez mais le fait de partir de chez McLaren Mercedes pour aller à Mercedes, de découvrir une nouvelle structure, peut-être qu'ensuite il pourrait partir pour Red Bull, mais directement partir de McLaren chez Red Bull, là j'ai plus de doutes. Mais là faut attendre dans les 2 ans, on va avoir dans les 2-3 ans, là on va avoir un jeu de chaise musicale qui va être vraiment intéressant à voir. Vettel, Hamilton.
Ah, c'est pas difficile, hein.
Déjà, à la fin de la saison, il y a un risque de.
Bah, dans les 4 écuries de pointe, il y a un paquet de libre à chaque fois. Pour le moment.
Ouais, pour le moment, ouais.
Il y a le contrat de Massa qui se termine, il y a le contrat d'Hamilton qui n'a pas encore été renouvelé, le contrat de Schumacher qui se termine cette année et qui n'a pas été renouvelé, et le contrat de Weber qui ne fait que des contrats d'un an, et qui a dit Weber, c'est très qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'a rien dit.
Il a
rien dit.
Il allait dire un truc, mais il s'est révisé. Ah, Moi, je sais laquelle c'est.
Ouais, non, ouais, pour moi, c'est juste, ouais, une rumeur de plus, mais ça m'étonnerait pas. Pour moi, c'est l'écurie dans laquelle, ouais, je vois plus Hamilton se diriger pour garder, ouais, un lien vers Mercedes.
C'est vrai qu'il connaît des gens, forcément.
Que d'aller directement dans une infrastructure totalement différente, comme, ouais, Ferrari ou autre, mais voilà, Ferrari, on voit plus un Vettel suivre les traces d'un Schumacher et de partir chez Ferrari. Et à l'inverse, je verrais plus un Alonso aller chez Red Bull pour le développement et même pour la stabilité, parce que je vois mal le team Red Bull pouvoir accepter un semi, on va dire caractériel, mais une personne difficile à gérer comme Hamilton. Je crois qu'il se dirigerait plus vers un Alonso, parce qu'il serait sûr, même pour un new way out, d'avoir quelqu'un avec qui il pourra développer la voiture. Mais bon. Oui.
Enfin, Vettel Alonso, ça va être sympathique.
Non, parce qu'Alonso.
Ça serait chimie. Bien.
Bah non, pas de voilà. Vettel. Hein. Je reste chez Red Bull pour le moment. Je te préviendrai quand tu pourras venir chez Ferrari. Non,
mais je verrais bien. Non, c'est pour ça que je verrais bien un rock entre Vettel et Alonso, quoi. Peut-être cette année ou l'année prochaine, mais.
Et donc Perez et Bianchi chez Ferrari.
Perez, why not? Perez, ouais.
Reconstruction jusqu'au bout.
À la limite, moi, je serais Ferrari. Mais il y a une rumeur là qui a couru. C'est quand? C'est dans la nuit de c'est vendredi soir. Sur Twitter, ça s'est emballé. Ferrari s'était séparé de Massa. Voilà. Face à la situation de chez Ferrari, ils se sont dit, quitte à ce que ce soit une année de merde, autant faire des terrains jeunes pilotes. On va mettre Bianchi. Voilà. Et ils s'étaient séparés de Massa. Puis le lendemain, Massa, il arrive sur le circuit. Il monte dans la voiture et Ferrari dit sur Twitter, bon, bah, alors Felipe dans la voiture, hein, contrairement à ceux qui disaient hier qu'il n'y serait pas, il y est. Mais ça, en même temps, je me dis, si jamais vraiment la voiture, elle est pas au niveau et qu'il peut pas se battre cette saison, autant à la limite, laisser Alonso se battre et voilà, et parce que lui il arrivera à faire quelque chose et développer avec Alonso, puis en même temps de travailler avec Bianchi ou avec Perez, enfin débaucher Perez, enfin il se démerde pour les lancer et arrêter le contrat de Massa, qui on sait très bien c'est un truc à polichinelle, va pas rester, enfin.
Écoute, on n'est pas à l'abri de surprise.
Arrête, oh non, CJ, arrête. Je peux pas attendre 2014, c'est pas possible.
Mais ça aurait été, ouais, le départ de Massa, ouais, ça aurait pas une chose. Ouais, ça aurait été une bonne évolution pour Ferrari, parce que je vois pas là ce qu'il peut. Et le pire, c'est qu'est-ce qu'il apporte à Ferrari? L'un de vous, allez, dites-moi ce qu'il apporte à Ferrari. Quelque chose de vraiment positif.
Il a un regard.
Des fans au Brésil.
Ouais. Bah, voilà, si on met à Perez, limite, il aura plus, autant, qu'on dirait.
Il ressort.
Oh, mais arrêtons, messieurs, avec cette histoire de ressort.
Non, mais voilà, il apporte depuis deux saisons quasiment, ouais, surtout la saison passée, il a rien apporté à Ferrari de vraiment constructif. Le fait de passer à Perez et de vouloir directement... Là, moi, je suis 100% d'accord avec toi.
Sincèrement, tout le monde est d'accord sur Massa, enfin.
Ouais,
c'est lui, hein, cher fan de Massa.
Ah, voilà,
on est
pas
en train de dire que Massa ne devrait plus être en F1. On est juste en train de dire, dans une écurie de peloton,
ça devrait plus être chez Ferrari.
C'est pour ça que Ferrari fonctionne pas cette année. C'est qu'ils veulent le préparer. Voilà. Tu vois, le milieu de peloton, Felipe, ça ressemble à ça. Hein. Donc, devant, t'as les autres voitures. Derrière,
tu vois la voiture noire et blanche.
Et puis toi, t'es là au milieu, tu vois. Hein. Ils veulent lui permettre de prendre ses marques.
Ils vont faire l'échange chez Sauber, en fait. Ils vont faire Perez, Massa.
Voilà, le transfert.
Comme ça, il trouvera Peter Sauber et puis il sera content.
Sans critiquer, voilà, le talent de Massa en lui-même. Il apporte rien. Donc, sincèrement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est, on a des pilotes au sein des teams qui occupent des baquets qui n'apportent rien. Je vais être, là, vraiment pour être, certains pourront me considérer comme méchant, mais je vois Weber l'année dernière. Personnellement, vu ce qu'il a produit tout au long de la saison, moi, à la fin de la saison, je prends quelqu'un d'autre.
Weber, c'est une saison, entre guillemets, moyenne. Après une très bonne saison en 2010, c'est-à-dire que tu peux pas non plus, dès qu'un pilote fait une saison moyenne, le virer. Il faut aussi, voilà, surtout si t'as personne derrière. Ouais,
et tu prends en compte l'âge ou autre, tu paries sur un jeune pilote.
Ouais, mais c'est le jeu de faire jouer la hiérarchie aussi.
Ah, justement,
les hiérarchies se mettent en place, c'est le jeu. Enfin, voilà, Vettel prend le devant, prend le dessus sur Weber. Non, bon, c'est comme ça, ça arrange Red Bull derrière, dans un sens. Hein.
Exactement.
Pour mettre qui? Pour mettre Buemi ou El Garçuari? Le problème, c'est que Buemi et El Garçuari, ils ont pas prouvé en l'état qu'ils pouvaient permettre de faire mieux que Weber et de jouer le titre. Aujourd'hui, ils préfèrent garder Weber qu'ils ont faire signer qu'un an, en sachant que 2013 serait un peu plus ouvert, qu'il y aurait des gros pilotes sur le marché, et qu'il y aura peut-être plus de possibilités.
Attends, ils nous ont bassiné sur le fait qu'ils placent de grands espoirs sur Vergne, qui sont limite déçus de l'avoir placé là parce qu'ils auraient voulu un team, le placer dans
team. Non. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient le placer et que finalement, comme ils n'ont pas plus réussi à le placer ailleurs, sous-entendu HRT ou Marussia ou Caterham, ils ont été obligés de prendre chez Toro Rosso, mais leur intention a jamais été de mettre chez Red Bull.
Ouais, sincèrement, tu vois, par contre, la philosophie de Red Bull via Toro Rosso, j'arrive pas à la comprendre. Sur le fait que le mec, faut qu'il fasse un exploit de malade, surtout que désormais t'as de grosses différences entre les Formule 1 qui prennent vraiment, c'est des divisions d'écart entre chaque. Faut vraiment qu'il y ait un miracle pour que le mec arrive à faire quelque chose. Là, si on croit on a pilote, on a une possibilité d'avoir une année sur laquelle on peut travailler avec ce pilote. On place Vergne. Weber, il fait quoi? Il aide au développement, il fait des crash tests, il fait quoi? Ah ouais, non, je te jure. C'est sans doute très dur ce que je suis en train de dire, mais faut être réaliste à un moment. Soit tu gardes des gens compétents autour de toi et t'avances, soit tu traînes, t'as le mec qui te foire la saison dernière. T'as dû le remuer durant l'année, il a dû avoir quelques réunions, les mecs lui ont dit, attends, là, tu commences à te sortir un petit peu les doigts, tu nous fais quelques résultats, il les fait pas, tu dis à la fin de l'année, on tente notre chance.
Mais pour mettre tu peux pas mettre non plus un
putain. Ouais, puis attends, mais ça coûte du fric de résilier un contrat.
Non, il avait pas de contrat.
Ah non, il avait pas de contrat, ça coûtait rien. C'est ça.
Ouais, non, mais si tu dis je le vire, t'as aucun intérêt. Par exemple, si à la fin de cette saison, à la fin de cette saison, oui, lui. Mais par exemple, tu prends un mec comme Massa, je veux pas le virer à la fin de cette saison.
Prends un autre exemple, parce que rappelle-toi, c'est Ferrari. Ils ont viré un mec comme Kimi Raikkonen. Ça leur fait pas peur. Pendant un an pour rouler en rallye, alors. Donc Massa, ça leur coûtera pas cher, tu vois, ça sera un timbre.
Bon. Non, je veux dire, c'est qu'il y a des fois, je suis quand même étonné de voir que des écuries persistent avec des pilotes, alors que justement, la F1 c'est fait pour avoir un renouvellement. Si le mec il est pas performant, je suis désolé. Au boulot, si le mec pendant un an
tu comprends quand même qu'il y a du renouvellement, mais qu'il y a aussi une certaine hiérarchie. Tu peux pas non plus faire venir n'importe quel pilote chez Red Bull en sachant que t'as une équipe qui est en train de jouer le titre, qui a atteint un certain niveau d'équilibre, qui est habitué à un certain niveau d'expérience. Tu peux pas faire débuter un mec comme Ricciardo ou un mec comme Vergne dans cette voiture-là. Et alors que Buemi et El Garçuari ont pas nécessairement montré des qualités qui font que ça en font potentiellement de meilleurs candidats. Maintenant, voilà, le truc, c'est derrière, tu engages qui à la place? C'est quand même Red Bull, enfin c'est quand même l'écurie champion du monde en titre. Tu peux pas prendre un débutant chez Red Bull, surtout quand tu es une écurie qui a déjà investi dans une écurie de promotion. Ils ont déjà une écurie qui est chargée de faire grandir.
Mais déjà l'année dernière, lorsque j'ai vu qu'il y avait les négociations pour Rosberg, sincèrement, je pensais que moi, Red Bull allait se placer. Allez pas le laisser 2-3 ans de plus en disant et en voyant les résultats en cours de Weber.
C'est un de leurs pilotes. C'est-à-dire que la stratégie Red Bull, c'est les pilotes Red Bull, c'est Vettel. C'est Vettel, c'est potentiellement Vettel, etc. Donc leur objectif, c'est de montrer qu'ils sont bons dans la détection, etc. Moi, Red Bull, leur politique, elle est très bien. Enfin, c'est quand même les seuls qui ont dépensé de l'argent pour une écurie où ils permettent à des jeunes pilotes de grandir. Après, ils font le boulot, ce que ne font pas les autres. J'aime beaucoup Ferrari, mais Ferrari, depuis 30 leur mode de fonctionnement, c'est j'attends que les autres fassent le boulot et je vais le faire et je vais les prendre quand ils seront arrivés à leur bon niveau. Je pense que sincèrement Red Bull, ils sont pas critiquables sur ça.
Moi j'attends de voir, tu vois, c'est cette saison ou dans deux saisons, voir par rapport à Vergne. On verra vraiment que si le mec est simplement dans le milieu de peloton qui fait son tour régulier, voir le comportement qu'aura Red Bull pour vraiment juger des attentes qu'ils ont. Parce que le fait qu'on dise ils attendent pas le prochain Vettel, je sais pas, j'ai parfois l'impression, même à les écouter ou à les lire, que c'est parfois l'impression qu'ils donnent, quoi. Ils veulent le champion d'exception qui apparaisse comme ça d'un coup.
Ouais, ils en ont pas besoin.
C'est ça que, ils en ont pas parce qu'ils ont Vettel pour le moment. Quand Vettel va partir, ils vont se retrouver le bail dans l'eau. Mais cette politique-là, je t'avoue que moi, j'ai parfois quand même un peu le, de voir ce pool. Ce que je veux dire, c'est très dégueulasse. Pour moi, ça fait un peu ara. Voilà, ils en emmènent plein sur l'hippodrome. Allez-y, et on n'en sélectionnera que quelques-uns, et les autres, ils vont passer à la...
Mais oui, au moins, non mais ça, soit... c'est comme ça que ça marche. Au moins, ils font l'effort d'amener des pilotes, de leur donner leur chance. Qu'est-ce que fait Ferrari? Qu'est-ce que font McLaren? Enfin voilà, McLaren, il y a l'exemple Lewis Hamilton, mais c'est vraiment une exception, quoi. Que font... voilà, c'est, sincèrement, c'est comme ça que ça marche. Et, la Formule 1, t'as 26, t'as 24 places, voilà, t'en ramènes 50, les 24 meilleurs, ils sont devant.
Je sais pas, je suis étonné sur le fait que, comment dire, ils tentent des pilotes, soit ils ont fait deux ans avec Aguilar-Suari ou Buemi, ouais. mais j'ai pas trouvé qu'ils poussaient assez. Quelquefois, à les entendre, je trouvais, non, ce que je trouvais, c'est que
c'est pas
la rivalité entre les deux. Ouais, non, mais je trouvais qu'ils poussaient la rivalité entre les deux au lieu d'essayer d'avoir un travail d'équipe, c'est-à-dire voilà. Un travail un petit peu d'osmose, même qu'il y ait une hiérarchie, et que parfois c'est envoyer un petit peu les mecs à l'abattoir sur le fait de déchirez-vous pour réussir.
Bah ouais,
pour réussir. Ouais, mais t'as quand même.
C'est des critères d'exigence.
J'espère qu'ils vont pas les monter l'un contre l'autre et vouloir essayer absolument de les pousser. Que s'il y a une hiérarchie qui commence à se dessiner, qu'ils essayent de la maintenir un peu.
Ils sont de fait l'un contre l'autre, de toute façon.
Oui.
Déjà, parce que de toute façon, ils sont coéquipiers, donc de toute façon, à la limite, celui que t'aimes le moins dans le paddock, c'est ton coéquipier. Et en plus, le fait même de la manière dont ils ont été présentés, c'est comme dit Dino, c'est deux talents, donc deux talents, c'est deux coqs dans la basse-cour, donc il faudra qu'il y en ait un qui tue l'autre. Déjà, rien que pour 2013 ou 2014, soyons fous, si Red Bull veut placer quelqu'un dans le baquet de Weber qui soit un produit Red Bull, bah, il faudra bien qu'un des deux prenne l'avantage sur l'autre et qu'il se déchire.
Oui, puis c'est ça surtout que derrière, c'est que derrière, il n'y a qu'une place.
Ah oui.
Donc, messieurs, on passe à la dernière actu de ce podium, qui en comptera donc 5, et qui concerne le lancement de Marussia et de HRT. Marussia qui a lancé sa voiture, qui a fait un shakedown, sans avoir passé le dernier crash test qu'ils avaient échoué. Mais
si,
maintenant,
si,
ça
si,
gagne. Mais en tout cas, hier, voilà. Ils n'étaient pas encore passés. Là, c'est là, bon, c'est ça bon. Y est.
Ouais.
Donc, on aura Charles Pic à Melbourne.
Ouais.
Ouais.
De toute façon, au pire, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi.
Non.
Allez, ça c'est fait.
Donc, avec cette grande question, hein, que pensez-vous des livrées, de la livrée de la HRT?
Je croyais que tu me parlais de la coupe de cheveux de Pic.
Le grand débat.
Je sais pas quel est le pire, la livrée de HRT ou je sais pas. Au moins ils font tout sur
Charles.
Ah, ils font. Bah ils l'ont trouvé où? Sur une pub L'Oréal ou Non, c'était un pilote avant.
Quel beau gosse. Va y avoir Charles Pic, le jeune premier, et Pedro de la Rosa, le brun ténébreux.
Le jeune dernier.
Le jeune dernier.
Ah ouais, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère là, la vache, le pauvre Pic.
J'ai pas le choix de plus, enfin.
Ouais, c'est clair. Mais...
Non, bon, c'est concernant la livrée, la Marussia, c'est dans la suite logique de l'an dernier, c'est-à-dire la destruction de cette très belle livrée qu'ils avaient la première année.
La petite fleur en surimpression, ça me.
Il y a plus les surimpressions, rien, c'est noir et rouge, vas-y.
Je vais l'appeler juste masse, la voiture.
Ouais, voilà, tout à fait.
Rouge,
noir. Hein, mais je disais, il y a pas la bosse.
Non, mais ils ont fait un tout plat.
Ils ont dit, c'est pas la McLaren vraiment, non, c'est autre chose.
C'est un museau qui ressemble beaucoup au museau d'IndyCar. Alors je sais pas si c'est comme ça sur la nouvelle, mais sur les anciennes IndyCar, avec vraiment la rupture qui se fait très tôt, quasiment au-dessus des genoux du pilote, pour ensuite descendre au bon niveau. Là où McLaren, ça plonge, mais au niveau des roues, quoi.
Puis en plus, enfin, la cassure est comme ils ont fait comme Sauber, tu sais, c'est sur la partie noire pour qu'on le voit pas.
Ouais.
Au moins c'est discret. Après la HRT, la première fois que j'ai vu la HRT, alors c'est peut-être parce que c'est cette équipe-là, j'ai cru que c'était une GP2.
Ouais, non mais sincèrement, regardez la GP2, regardez la HRT, c'est grosso modo pareil, peut-être un peu plus gros. Mais...
C'est vrai qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui choque dans cette livrée.
C'est quand même la première voiture, j'ai jamais vu ça, c'est la première écurie qui met des sponsors sur l'intérieur. De l'aileron arrière.
Mais oui, mais c'est des sponsors ou c'est des mecs.
Oui, non, c'est HK7, c'est le sponsor qu'ils ont annoncé il y a deux semaines et qu'ils mettent sur l'intérieur de l'aileron arrière. C'est bien rare, en même temps, c'est l'endroit où on les verra le mieux.
Mais c'est pas con du tout, parce que les voitures, la plupart du temps, on les voit de trois quarts.
Oui.
Bah, surtout, il y a des fois, on l'a vu caméra arrière.
Bah, disons, je dis quand même.
Donc, pour voir le suivant.
Quand tu regardes la HRT, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une voiture où il y a de la place pour mettre des sponsors sur le côté.
Oui, oui, d'ailleurs. Donc, ils doivent être contents chez Tata.
Oui. Tu me diras avec ce qu'ils doivent payer pour avoir Karti Kéyan au volant, s'il y a bien un mec qu'on a peut-être pas à revoir chez HRT, c'est Karti Kéyan.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a d'autres petits sponsors. Ils auraient pu se dire, bon, bah,
ah non,
on va remplir. Ils sont en tout petit sur le bord de la voiture.
Attends, ils ont un gros sponsor qui est sur le fond plat. Le mec, il a payé 3 milliards.
Parce que c'est peut-être eux qui vont essayer les tests pour voir si les voitures dégagent pas cette année.
Sinon, c'est bien, il y a du rouge et jaune. Hein, pour.
Non, mais je crois qu'ils ont dit, les gars, cette année, on fait aucune concession sur la livrée.
On veut vraiment une voiture qui ait l'air révolutionnaire. Bon, on n'est pas trop d'argent. On va juste le faire dans la peinture.
Oui. Oh, les pauvres.
Ouais, mais ils ont présenté un prototype, quoi. C'est quand qu'ils nous montrent la vraie, quoi. Parce que... Non, c'est vrai que c'est vraiment l'une des plus ratées. Il y a à se battre avec la Ferrari, quand même. C'est
enfin,
vraiment...
elle a l'air quand même beaucoup plus
travaillée. Parce qu'elle fera de très bons résultats en GP2.
Quand tu penses que l'an dernier, des certaines GP2 battaient les HRT, c'est un pas en avant.
Allez, se prépare pour la saison prochaine.
Vous êtes cru.
Non, mais c'est vrai que la HRT, on peut le reconnaître, c'est que c'est une voiture qui est très classique. On peut pas plus classique, mais au moins qu'elle, moi ça fait plaisir de voir des voitures comme ça, tu vois. Voilà, cette voiture.
Là, Dino, t'as cherché de
l'argument. Non, mais c'est une voiture, tu la regardes, tu dis, voilà, elle est pas révolutionnaire, je vais pas passer 3 heures à la regarder comme je pourrais regarder la Red Bull, je vais pas faire des comparaisons et compagnie, mais voilà, c'est une voiture qui est agréable à regarder par ses formes, qui nous rappelle un certain temps où les F1 étaient quand même jolies, avaient de la gueule, et tu dis, c'est quand même dommage qu'on ait les museaux et compagnie, parce que même là, tu vois, la solution qu'ils ont adoptée, bon, bah, il y a la marche, mais ça fait joli.
Ouais, puis ça a l'air quand même beaucoup plus travaillé que.
L'avant, elle a l'air assez.
Elle a l'air petite. Comme...
Oui. En fait, c'est pour que Karti Kéyan ait pas l'air trop grand.
Ou c'est pour l'impression qu'elle passe plus vite.
Donc, Marussia, techniquement, à part le museau.
Non.
Ah, bah, elle n'a pas le terre, ça c'est sûr. Ils n'en veulent pas.
Alors qu'Acharté a dit, il l'aurait peut-être.
Oui!
C'est des mecs qui ont quand même prévu une voiture avec le Kers, qu'ils le mettront sans doute jamais.
Non.
Mais au moins, il y a la place.
Ouais. Ils vont mettre des packs de bière à la place, des trucs comme ça.
Bon, bah, c'est les 5 actus qu'on a retenus. Il nous en reste tout plein, messieurs. On a plein retenu. Il va falloir choisir parmi toutes ces actus laquelle dont on n'a vraiment rien à foutre, mais dont on va quand même parler 5 minutes hein, pour se faire plaisir. Alors, je vous rappelle la liste, puisque je vous l'ai envoyée, mais je vais la rappeler. Donc, je vous donne la liste des actus qui n'ont pas été retenues pour ce podium de l'actu. Et ce sont les suivantes. Alan Jones, le remplacement de Trulli est une évidence. Le bilan des essais, réalisé par Clément, rédacteur de Fan F1 aujourd'hui. Claire Williams remplace son père au conseil d'administration de Williams. La fin du nez d'ornithorynque dès 2013, un article écrit par toi, Fab, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Le changement de limitation de vitesse dans les stands, un article écrit par moi, si je me trompe pas, tout à fait. Donc, Mika Salo, testeur Ferrari à Suzuka, bon, ça on en a parlé brièvement tout à l'heure. Perez se voit déjà chez Ferrari en 2013. Vergne et Grosjean au top le deuxième jour à Barcelone. Et attention, petit instant promo. Il a lui-même reconnu qu'il avait fait un peu de promo. Voiture cliente, pour ou contre? Alors, messieurs, si vous deviez en retenir une dont vraiment vous avez rien à foutre, laquelle serait-ce?
Mika Salo testeur.
Ouais.
Mais non! Attends, le retour de Mika Salo, merde.
Ah ouais, Mika Salo testeur de Ferrari.
C'est vrai que, ouais, il y a quand même un truc.
Attendez, c'est Mika Salo, quoi, c'est notre enfance, les gars.
Ouais.
Enfin, c'est votre adolescence, quoi.
C'était 30 ans, Steph.
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Purée, j'ai arrivé sur la trentaine. Purée.
Alors, non, moi j'aurais dit Claire Williams, mais j'en ai rien à foutre.
Mais si, c'est Williams qui prend encore du recul.
Oui, il prend du recul du conseil d'administration. Pour se concentrer sur son rôle de team principal. Voilà, il va être team principal, c'est même mieux pour nous, c'est une bonne nouvelle pour nous.
Ah non, mais déjà, même Mika Salo, à l'époque, on s'en foutait, vous allez pas me dire le contraire. Qui était fan de Mika Salo?
Ouais, forcément, moi, je crois. Dès que j'ai mis en rouge, forcément, j'ai eu une révélation.
Mais Mika Salo, c'est incroyable, non? C'est un mélange entre Mika Häkkinen et, comment ça s'appelle, cet acteur américain, dont le nom m'échappe.
Ah oui, je vois.
Le blond, là, j'étais dans Hit. Café Batman.
Ah, Val Kilmer.
Val Kilmer.
Ah ouais, effectivement.
Ah ouais.
Vous voyez.
Donc ça nous donne comme actu dont on n'a rien à foutre. Moi, Claire Williams, qui remplace donc son père au conseil d'administration de Williams. Mika Salo, qui testera pour Ferrari à Suzuka pour Steph Kerr. Et puis...
Oh, pareil.
Toi, pareil.
Ouais.
Oh. Okay. Oh, tout à l'heure, t'étais avec Fab. Et Fab,
Fab
qu'on n'a rien à foutre de Vergne et Grosjean au top le deuxième jour à Barcelone.
Oh, absolument.
Ouais. C'était bien, quand même.
Ben non, mais c'était nul.
C'était bien, j'étais devant.
Non, mais arrêtez. De toute façon, vous ne me ferez pas revenir sur Mika Hakkinen, Val Kilmer, s'il vous plaît.
Mika Salo, s'il te plaît.
Mais c'est un délit de sale nom, ça.
Mais si on se calme.
Mika Salo, Kiki Rosberg, voilà.
C'est Dino, le... mais soutiens-moi dans cette affaire.
Mais non, mais en même temps, je peux pas dire j'en ai rien à foutre parce que c'est moi qui l'ai mis et je suis le seul. Mais je peux pas te soutenir. Parce que fondamentalement, ça m'a intéressé d'avoir Grosjean et Berg devant. Donc voilà,
bah ouais, moi aussi.
Niveau sondage, on va vous proposer tout au long de la saison, après chacune de nos émissions, un sondage pour nous départager. Est-ce qu'on met les questions actus ou est-ce qu'on met les actus, les vraies actus du podium à départager?
À mon avis, enfin, je sais pas si c'est vraiment utile de départager les actus dont on a parlé, puisque finalement, a priori, on est quand même un échantillon représentatif.
Et pour voir vraiment quelle est la celle qui a le plus marqué nos auditeurs.
Ouais.
Bah, elle est nôtre. On est des esthètes, c'est obligé qu'ils nous suivent, non? C'est pas ça?
Ah non. Ah, c'est ça. tu vois déjà, Steph Kerr, qu'on a du mal à s'entendre entre nous, alors. Je pense qu'il faut pas qu'on parte du principe que tout le monde est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un sondage, en bas de l'article, auquel vous avez sans doute déjà répondu, comme tout le temps, c'est la même chose. Donc, ce sondage vous demandera de désigner, quelle est, l'actu, la plus importante, selon vous, voilà, qui mérite la victoire du podium de l'actu. Entre Alonso et Fry pensent que Ferrari va souffrir en début de saison. Hamilton pour remplacer Schumacher chez Mercedes en 2013. Le Grand Prix d'Europe retiré du calendrier 2012. Le lancement de Marussia et HRT est officiel. Barrichello disputera intégralement la saison 2012 d'IndyCar. En donnant les résultats la semaine prochaine, ça permettra comme ça à Gus Gus et Ben, s'ils veulent rajouter un petit truc, de mettre leur grain de sel. Et nous allons passer, messieurs, aux citations.
Mmh.
Est-ce que vous avez des citations?
Moi, c'est une citation, parce que je les aime bien, je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour, c'est une citation de quelqu'un chez HRT. C'est le nouveau patron, hein, celui qui a remplacé monsieur Kanda dans le pantalon. Donc c'est Luis Pérez Sala, que nous saluons, ouais. Bien sûr. Et donc là, vous savez qu'aujourd'hui, hier, la HRT a un peu pu rouler. Et il nous a dit, très gentiment, que c'était un grand jour car nous avons pu tester certaines choses avec la voiture. Alors, faut quand même savoir qu'ils ont roulé, oui, mais ils ont fait 10 tours. Bon, et 10 tours du circuit de Barcelone, c'est pas mal. Non, en fait, c'est le petit circuit de Barcelone qui fait 2,5 km. Donc, on va être clair, ce qu'ils ont pu tester, c'est surtout qu'ils ont réglé les rétros. Vous me direz, dans leur situation, c'est pas si mal. C'est déjà ça de moins à faire à Melbourne, en quelque sorte. Mais pas plus, hein. Faut pas qu'ils nous mentent.
Mais il passe par où le petit circuit de Barcelone?
Ah bah ça, c'est du travail d'investigation. Qu'un des journalistes de la rédaction fera, évidemment.
J'essaie de faire un tour, mais je me dis, attends, par où il passe? Ah, ça me stresse, là, d'un coup. Steph?
Non, justement, tu vois, j'ai cherché et tout, mais j'ai toujours tout trouvé tellement, conventionnel en début de saison.
Une déclaration sur un pilote que tu voudrais mettre en valeur? Il pourrait reprendre une vie normale.
Bah oui, non, mais il a pas fait de déclaration directe.
Il y a un ami à lui qui a dit il va pouvoir reprendre une vie normale.
Non. Non, son justement. Deux secondes, je suis en train de reprendre.
Allez, on a perdu Steph encore.
Alors, ce qui m'a fait penser au un jour avec Kubica. J'en ai pleuré de rire pour je sais pas combien de temps. Hein. Au boulot, on m'a pris pour un fou. Non,
j'ai rien compris. Peter, vous ne sentez pas seul. Nous aussi, on comprend rien.
Non, pour ceux qui connaissent le blog de Fab, La fin des haricots, il a, fait il fait qu'on lit des articles, et là en particulier le jour de soit Lewis Hamilton, une journée avec Lewis Hamilton, et il a fait une journée avec Kubica, qui enchaîne malheur sur malheur, et donc en entendant son aïe, ça m'a fait réagir, et j'invite tout le monde à se rendre sur son blog La fin des haricots, et de découvrir les différents articles qui sont vraiment, pour certains, vraiment à mourir de rire, quoi. Et non, là en l'occurrence, bah, même sur Kubica, sur le fait qu'il puisse réattaquer, son ami, il n'y a pas eu de déclaration directe, même son ami a plutôt enfoncé la chose en disant qu'il fallait encore plusieurs mois avant qu'il puisse reprendre la Formule 1, il mettait plus en doute, mais il n'y avait pas de citation directe. Et j'ai cherché, après j'ai trouvé tout un peu conventionnel, j'ai rien trouvé qui sorte du lot, qui m'intéresse réellement. J'ai trouvé ça un petit peu plat pour le moment.
Alors Shinji ?
Donc c'est pour ça que j'ai pas de citation.
Alors, une petite citation d'un certain Kimi R.
J'aurais dû parier qu'il en prendrait une. C'est quasiment certain.
Certains vont apprécier. Il ne s'agit pas d'un manque de motivation si votre voiture est une poubelle et que vous ne parvenez pas à signer un bon résultat. Ami de Ferrari, bonjour.
Je te rappelle qu'il a piloté pour Raikkonen. C'est vrai qu'il a piloté pour lui.
Voilà. En premier, ça a toujours été ça.
Ça se trouve, il parlait de rallye, tout simplement. Hein, il disait que c'était en rallye.
De motoneige.
Voilà, bah, tout à fait.
Voilà.
Dans ce charmant village mexicain de Glem. Et donc, alors moi initialement j'avais retenu la phrase de Mark Webber, mais comme on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et ce sera une phrase de Robert Fernley, team principal adjoint chez Force India, qui déclarait: je dirais qu'aujourd'hui une équipe moyenne dépense entre 80 et 100 millions de dollars en tant que petite équipe, et les revenus de la FOM sont loin de couvrir cela. Donc vous avez besoin d'une augmentation des revenus commerciaux, et ensuite il faut dégager un profit. Voilà, on renégocie actuellement les accords Concorde. Bonne année Bernie. Puisque voilà, hein, c'est, grosso modo, ça donne un peu le ton. C'est Bernie, on veut plus de fric. Puis Bernie va dire: non mais les gars, c'est pas possible. Les comptes là, ils sont. Je peux pas là, c'est trop possible. Enfin, là.
Non mais c'est beau qu'il y ait des teams qui espèrent gagner de l'argent en F1. Quand même, c'est un bel espoir, parce que c'est quand même vraiment rare, hein, surtout pour Force India. Ouais, il y a quand même un peu d'espoir. Surtout faire crasher Bernie. Là, je leur souhaite bonne chance. Un petit passage à Lourdes avant Monaco, je crois que ça sera le bon plan. Hein,
Ok, bah messieurs, on va passer au répondeur. On va pouvoir passer à la deuxième session de quiz.
Ouais,
exceptionnellement, ouais. Une question chacun. La prochaine fois, on vous promet, ce sera une question par équipe et par émission. Hein. Mais là, c'est une question chacun. C'est qui avait commencé la dernière fois ? C'était nous, Shinji.
C'était vous.
Allez.
Nous avons répondu.
Attendez, je sors le chrono. Alors, les gars, vous avez 5 minutes. Alors... Une fois n'est pas coutume, c'est un chiffre aussi. Et c'est le chiffre 150.
A-t-il un rapport direct avec la Formule 1 ?
Non.
A-t-il un rapport avec a-t-il un rapport avec le sport automobile en général ?
Oui.
Oui.
Est-ce rallye, monoplace ?
Non, je veux pas te dire. Moi, je te réponds que par oui ou par non.
Bah oui. Bah,
va dire.
J'attends un oui sur le rallye. Ou...
Non, des questions, je sais pas.
Est-ce du rallye ? Est-ce de la monoplace ?
Non mais il faut en une à chaque fois. C'est vu, Shinji, je gagne du temps.
C'est clair.
Alors,
est-ce du rallye ?
Non, c'est pas du rallye.
De la monoplace ?
Non, c'est pas la monoplace.
Est-ce que c'est une distance ?
Non.
Une durée ?
Non.
Est-ce un nombre qui qualifie un entier, une quantité ?
Oui. Oui, c'est une quantité.
C'est une quantité, ouais.
C'est une quantité. Non.
Là, tu remarques, c'est Thomas qui lui fait perdre du temps. Il le perd tout seul.
Est-ce...
C'est un rapport avec les réservoirs ?
Non.
Est-ce... Déjà, si on cible pas exactement ce que c'est...
Ah bah, c'est le but du jeu.
Non, ce que je veux dire, c'est dans le sport automobile, tu sais, ni le rallye, ni la monoplace, donc automobile et course automobile, c'est pas des courses de camions.
Non.
Des courses de dracteur.
C'est d'endurance, oui.
Voilà, 150, c'est de l'endurance.
Ouais.
Les candidatures au Mans ?
Non.
Le nombre de personnes licenciées par Peugeot.
À peu près.
150. Est-ce que c'est un rapport avec l'arrivée de nouvelle technologie.
Oui.
150, bah, c'est pas le nombre de chevaux gagnés par les voitures hybrides ?
Non.
Ah, mais t'es pas loin, il y a eu hésitation, donc...
ouais, c'est moi. Non.
Il vous reste 2 minutes par, messieurs.
C'est le poids... Non, enfin non, c'est pas...
Est-ce le poids maximum des batteries sur les véhicules hybrides autorisés pour les l'endurance ?
Non.
Donc ça a rapport
avec... C'est un rapport avec la puissance développée par les voitures hybrides.
Oui, voilà, oui.
C'est un rapport, oui.
Est-ce que c'est une notion de poids ?
Non.
Non.
C'est une notion de puissance.
Ah, le 150, c'est la distance. Ils arriveront à parcourir 150 km avec une charge pleine et la quantité d'essence.
Alors, oui pour Fab, non pour Steph.
Merde, j'ai dit quoi, moi ?
Je suis en train de chercher.
C'est une puissance, bah, c'est un nombre de chevaux.
Non, c'est pas un nombre de chevaux.
Non, c'est pas un nombre de chevaux.
Bah, c'est la puissance en kilowatts.
Ah, c'est la puissance à partir de laquelle ouais.
C'est la puissance en kilowatts, d'accord, c'est... ok.
Mais c'est la puissance en kilowatts développée par le moteur.
De quoi ?
Bah, du moteur électrique.
Des batteries.
Oui, mais de quoi ?
Bah, des batteries qui vont alimenter les petits moteurs.
Ah, non, là, c'est vicieux. Attends, c'est la puissance en kilowatts que va développer les voitures hybrides.
Non, pas les voitures hybrides.
Les batteries.
Les voitures électriques.
Non. Derrière, il y a un truc précis. C'est pas n'importe quoi.
Vous avez vu? Moi, cher auditeur, il faut faire point technique maintenant pour répondre à la question tellement ils sont là.
Non, mais sincèrement, on s'en fout que ce soit 150 kilowatts. Maintenant, on veut savoir qui les fournit, ces 150 kilowatts.
C'est les batteries qui fournissent.
Oui, non, mais qui fournit tout ça?
Mais qui fait les batteries?
Ah bah non, mais attends, on te dit c'est quoi?
Oui, bah d'accord. Donc, l'idée, c'est... Voilà, on vous donne un chiffre 150. Vous
êtes... Les batteries fournies par Toyota?
Non, mais presque.
Non.
Par Audi?
Par Renault?
Les batteries fournies par Williams à Toyota.
Bah voilà, dis donc, à 25 secondes près. Mais oui, c'est le système Kers fourni par Williams, c'est ça qu'on voulait derrière.
Mais c'est pas 150.
Non, c'est 150 kilowatts, c'est le nombre de watts que va être généré par le système Kers fourni par Williams à Audi. C'est cette réponse-là qu'on voulait. Vous nous auriez juste dit, ah, c'est le Kers Williams, comme vous étiez parti pour dire il y a 2 minutes, ça aurait été bon. Vous êtes parti sur les kilowatts, on s'en fout des kilowatts.
Ah, excuse-nous de vouloir être précis, de vouloir informer les gens.
Bah, et en même temps, tu nous demandes un chiffre, on te précise le chiffre dans son exactitude pleine, et après tu vas nous chipoter sur le nom d'une marque.
C'est pas n'importe qui les donne, ces kilowatts.
Oh la vache, c'est pernicieux. Non, c'est, le vice.
C'est professionnel, c'est tout.
En même temps, ils pleuvent, ils ont eu les points.
Mais oui, on a eu les points.
Oui, c'est clair.
Tu pleurais.
Ça a été chaud, mais vous avez eu. Donc effectivement... Hein. Il y a Audi qui a présenté sa nouvelle R18. Hein, on précise bien que c'est une Audi, pas une Renault. Qui a présenté sa nouvelle R18 qui s'appelle la e-tron.
Ouais.
De toute façon, on dit bien la e-tron, quattro, et pas e-tron, quattro. voilà, qui fera ses débuts le 5 mai et qui sera donc équipé du système Kers développé par Williams Power Hybrid Power Energies .com. Voilà. Donc c'est une des manières dont la F1 s'implique au Mans, puisque on peut citer par exemple effectivement il y a le retour de Toyota au Mans qui se fera cette année, là aussi avec une voiture hybride qui sera la Toyota TS030, la digne successeur de la TS020 plus connue sous le nom de GT1, et qui donc a été conçue par Pascal Vasselon qui était à la tête de l'écurie de Formule 1. Il y a d'autres manières aussi dont la F1 a été impliquée plus ou moins directement en endurance. Laquelle, messieurs, est-ce que vous...
Bah, Sauber.
Bah oui, Sauber.
Bah, oui.
Double champion d'endurance avec la C9 à moteur Mercedes en 89 et 90. Il a fait ses débuts en endurance en 77. Et il a remporté une fois l'épreuve du Mans. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la numérotation des Sauber s'inscrit dans la lignée. C'est-à-dire que la dernière Sauber d'endurance, c'est la C11. Et la première Formule 1, c'est la C12. Voilà. Donc c'est typiquement l'écurie d'endurance. Qui est devenue une écurie de Formule 1 par la suite. Ensuite, qui d'autre ?
Bah, bêtement, la Mercedes.
Mercedes, oui. Alors, Mercedes, qui l'a remporté en 1952 en tant que constructeur, et après, qui l'a remporté à plusieurs reprises en tant que motoriste Il a remporté deux fois avec Sauber en tant que motoriste.
Ensuite, en autre team, je suis en train de chercher.
Bah, Ferrari.
Oui, Ferrari, hein. Ouais. Bon, même si c'est pas lié à la F1, mais à l'époque, Ferrari avait deux programmes. Ils l'ont remporté neuf fois en 49, en 54, en 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, avec notamment Phil Hill, Ludovico Scarfiotti et Jochen Rindt, hein, qui étaient des pilotes Ferrari. Et je crois que Rindt allait accéder à la F1 un an ou deux ans plus tard avant de devenir champion. Et il faut noter que le dernier proto Ferrari vu au Mans, donc je parle bien d'un proto Ferrari, remonte à 99 avec la Ferrari 33 SP qui était sponsorisée par Momo. Donc t'avais une belle Ferrari avec le logo Ferrari sur le museau et avec écrit Momo juste au-dessus.
Ah, je l'avais vue à l'époque. Ouais. C'était pas la plus le plus beau, justement la plus belle livrée qu'ils aient eue, hein, c'est clair. Ensuite en écurie on a McLaren aussi.
McLaren qui a remporté l'édition 95 des 24 heures du Mans avec la fameuse McLaren F1 GTR. Conçu par comment il s'appelle celui-là? J'ai dit
Murray.
Voilà, Gordon Murray.
Gordon.
Voilà. Et donc voilà, c'est un peu pour le tour des écuries actuelles. Alors je crois que Lotus va se réengager cette année. Mais en tout cas, voilà pour les grosses écuries.
Puis un retour de Ferrari, c'est un vieux serpent de mer, ça.
En proto, ouais. Bah ça a été évoqué notamment en 2009 lorsqu'ils ont menacé de faire un championnat parallèle. Ils ont dit mais on peut aussi revenir au Mans. Et là, tout le monde dit, vivement que ça explose en championnat. Donc, pour le moment, au classement, ça fait 4 points pour les chroniqueurs et 2 points pour les animateurs. Mais on va rapidement égaliser, Shinji.
Oui, bien sûr. Attention, préparez-vous. Donc, le chiffre inutile.
Ah, c'est encore un chiffre.
Ça aurait été un chiffre quand même. Donc, c'est 27 200 000.
C'est une somme?
Non.
C'est l'ILF.
Enfin, si, c'est une somme. Si, c'est une somme. Pardon.
C'était pas de l'argent.
C'est pas de l'argent.
Une somme de kilomètres?
Non.
Un poids?
Non.
Un nombre d'individus?
Non.
Un nom de grain de sable à Bahreïn?
Non, c'est pas ça.
J'ai peur. C'est un...
Ça concerne la saison de F1 actuelle?
Non.
Ça concerne l'histoire, la Formule 1?
En quelque sorte, mais faut... Cherchez pas de ce côté-là.
Une statistique de la F1?
Non plus.
Ah, quoique. Ouais, non, mais si. Ouais, si. Non, cherchez pas par là.
C'est un rapport avec la F1, on est bien d'accord.
Ah, bah oui.
C'est un rapport avec une équipe particulière?
Non.
C'est un rapport avec un grand prix particulier?
Non.
Non.
C'est un rapport avec Bernie Ecclestone?
Non.
Avec un personnage de la F1 actuel?
Oui.
Jean Todt?
Non.
Un directeur d'écurie?
Non, mais de toute façon, vous en tirerez pas comme ça. C'est pas en disant le nom de quelqu'un, il faudra quand même.
Oui, non, mais. Nous, on a compris les règles.
Ça concerne un directeur d'écurie?
Du temps et pas répondre à la question qu'on me pose. Non, c'est pas un directeur d'écurie.
Un pilote?
Oui.
Pilote de pointe?
Oui.
Kimi Raikkonen?
Non.
Alonso?
Fernando Alonso?
Oui, ça concerne Fernando.
Merde, Alonso. C'est Alonso. C'est un nombre de personnes?
C'est quelque chose qui possède en 22 millions d'exemplaires?
Les plus de l'argent. Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est lié à son divorce?
Non. Enfin, ça peut être lié à son divorce, oui.
Donc c'est...
Ça peut avoir.
C'est quelque chose qu'il possède?
Non.
Ça concerne ses fans?
Ça peut concerner ses fans. Ça peut intéresser ses fans.
C'est pas une somme d'argent?
C'est pas une somme d'argent.
C'est un produit qui sponsorise et enfin. Un produit qui serait associé à son image et qui serait vendu à 27 millions d'exemplaires?
Non, c'est pas.
Est-ce que c'est une surface? Genre en mètres carrés ou en hectares?
C'est pas une surface.
Là,
Steph Core, je dois quand même t'applaudir.
Pardon.
Attends, c'est lié à Alonso, c'est 27 millions, c'est ça?
Ouais, 27 millions.
C'est une audience?
200 000.
C'est pas une audience.
Non, parce que c'est pas un nombre de personnes.
Ouais, c'est vrai. Bon, ça se trouve, c'est des poissons, Shinji. Est-ce que c'est un truc qui pourrait intéresser un fan de Ferrari?
Ça pourrait intéresser un fan de Ferrari. Je pense pas que ce soit sa préoccupation principale, mais ça pourrait intéresser un fan de Ferrari.
Mais c'est pas primordial, ça là-dessus, c'est clair. Hein. Voilà, pour un fan de Ferrari, pas du tout.
Quand je dis ça, c'est que c'est vraiment pas primordial.
Merde, je suis bloqué là, Shinji.
Il vous reste 20 secondes. Ah?
Est-ce qu'il y a un. Non.
15 secondes.
Oh les mecs.
Allez, je fais le décompte à 10. Hein.
Merde, c'est dur, on va perdre là.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
Je vous accorde une proposition 2, au hasard, 1, après le gong.
J'en sais rien.
Le gong. Voilà.
Attends, oh, attends, c'est bon, il nous accorde une
proposition. Attends, on a le droit à une proposition.
Ils sont trop mal, là, mais grouillez-vous, quand même.
7 millions.
Allez.
Eh, hey, attends, juste pour aider, tout à l'heure vous avez parlé des fans, on peut dire j'allais dire une bêtise en disant que c'est les fans qui le créent, mais indirectement.
Non, là, je sais pas.
C'est,
le nombre de pages internet
consacrées, le nombre de résultats qu'on obtient quand on tape dans Google.
Exactement.
J'ai dit, on a gagné.
Non.
Vous marquez un point.
Vous êtes au-delà des 5 minutes, hein.
Vous êtes au-delà des 5 minutes, les mecs.
Ah oui.
Non, mais y a rien dans le règlement. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai écrit sur cette page.
Non.
Ça va, tu nous as dit,
tu nous laisses une proposition.
Tu nous laisses une proposition.
Je vous laissais une réponse, d'accord, mais je vous laissais pas l'indice de Steph Core avec.
Ah, mais après, c'est à vous de vous en faire.
Comment je crois qu'on pourra écouter les bandes.
Il avait qu'à se taire.
Voilà.
Ah non. Attendez, les mecs, c'est quand même pas mal un point après 5 minutes et 30 secondes.
Non, je suis désolé, ça fait 2 points.
Non. C'est soit c'est 1, soit c'est 0, les gars.
Ah ouais.
Quoi, on va les moucher, on va refuser même les 2 points.
Oui,
et on va gagner.
Oui, merci.
Tu vois, on va gagner. Pour le moment, il y a 4-2.
Bon, vous allez me laisser développer.
On veut pas de votre clémence. Il y a 4-2 pour le moment, mais à la fin, vous allez nous le payer, on se vengera.
C'est con.
Et Gus, Gus et Ben, vous allez souffrir.
Oui. Vous allez payer très cher.
Ça va faire des trucs impossibles. Je sens que cette saison est très très longue.
Là, je sais pas pour la prochaine. Mais, voilà. mais en l'occurrence, bah, maintenant à Fab de développer et d'apprendre 2-3 choses sur justement l'influence et des différents pilotes. Et il y a des résultats quand même assez étonnants sur Google. Oui,
tout à fait. Alors donc.
On avait déjà fait ça en plus, Shinji.
Oh la meute, toi donc. La preuve que vous l'avez bien fait. Ouais.
On n'y peut rien derrière si ça rechange.
Donc 27 200 000, c'est le nombre de pages qui apparaissent lorsqu'on tape Fernando Alonso dans Google. Donc, à votre avis, qui est second?
Schumacher.
Tout à fait. Tout à fait, loin derrière quand même avec 19 900 000 pages. Et en troisième position.
Raikkonen.
Ouais.
Eh bien non, c'est pas Raikkonen. D'ailleurs, Raikkonen...
Hamilton.
Il n'a que 7 490 000 vues.
Grosjean.
C'est...
Page.
Non, c'est Hamilton, mais c'est presque Hamilton.
L'article.
Ah.
Oui, 12 400 000 vues. Hamilton vient ensuite avec 9 450 000. Et à votre avis, qui est suivant?
T'avais écrit quoi dans Google? C'est Fernando Alonso, c'est ça?
C'est Steph Core qui a fait cette recherche.
Donc quand on écrit Fernando Alonso, on a 27 millions.
Oui, j'ai revérifié. Oui, tout
c'est bizarre, moi j'ai 38 200 000.
Ouais, mais parce que ton Google est complètement...
Ouais, je veux pas faire mon chien, mais votre chiffre n'est pas très précis, messieurs.
Ouais, votre réponse n'est pas très... messieurs. Donc, bon, allez. Donc ça, c'était pour les pilotes actuels. Ensuite, les pilotes qui ne sont plus en activité. À votre avis, qui est le leader?
Senna.
Ah ouais, 40 millions de vues. 40 millions de vues, ce qui le place quand même très loin des autres. Et alors, à votre avis, pour Alain Prost?
Oh, il doit pas forcément y avoir beaucoup.
Moi, c'est plus. Parce qu'il est impliqué dans plein de trucs. Puis il parle beaucoup.
Ouais, moi, je dirais moins.
Tu dirais moins? Eh ben, t'as raison. Et c'est beaucoup moins. Parce qu'Alain Prost, c'est 825 000 pages.
Ah ouais?
Eh oui, c'est... On voit la popularité des gens. Et sinon, d'autres grands champions? Populaires, la plupart du temps. Donc là, c'est les champions du monde, hein, bien sûr, je parle.
Ah, il a dit la plupart du temps. Donc je pense que Jacques Villeneuve doit avoir... Non, bon chiffre.
Villeneuve, on n'a pas vérifié, on n'a pas osé. Des grands champions, des grands champions, des multiples.
Piqué.
Piqué. Putain, tu fais chier. Mais, Piqué, par exemple, mais on pourrait parler de Jim Clark, évidemment.
Oui.
Jim Clark, 1 430 000 vues. C'est-à-dire que moins que Jenson Button et juste un peu moins que Lewis Hamilton. Niki Lauda, qui a 2 070 000 vues. Et dans les pilotes qui n'ont pas été champions du monde, mais qui sont populaires, on parle de Gilles Villeneuve, par exemple, qui a seulement 2 577 000 vues. Sterling Moss avec 2 890 000 vues. Et enfin, qui, à votre avis, a 43 300 000 vues sur Google?
En champion?
Non, non.
Mais
faut pas chercher dans les pilotes.
Avec Ecclestone, ouais.
Non. Ah oh non, avec Ecclestone, il y a beaucoup moins, je sais plus.
Todd?
Non.
Ferrari?
Non, mais pas les écuries, sinon ce serait.
D'accord.
Mais cherchez pas dans le monde de la F1, mais des gens qui gravitent autour.
qui pousse, comment dire, qui offre sa personnalité à aider à la promotion de la F1.
Bah,
oui, Nico Scherzinger a quand même plus de vues qu'Ayrton Senna.
Et par contre, le chiffre étonnant, c'est que Sébastien Vettel a pour vous à peu près combien de résultats il attire sur Google?
Deux championnats du monde.
Ouais, deux championnats du monde. Il emmagasine à peine 2 810 000 résultats. Il est loin derrière, c'est Rosberg qui doit être à peu près, je crois, à 4 800 000.
Alors que 6 millions et quelques.
Ouais, 6 millions et quelques pour Rosberg. Donc le fantôme. J'y disais, ouais, c'est pas un fantôme derrière Sébastien Vettel, c'est plutôt l'inverse. Sur Internet, aussi étonnant que ça paraisse, Sébastien Vettel est loin derrière tous les autres pilotes actuels.
Et enfin, c'est une question pour Shinji. Qui de Kimi Raikkonen ou de Charles Pic fait le plus de vues sur Google?
Quand même, Kimi Raikkonen.
Eh bien non, Charles Pic. 11 200 000, donc je sais pas où il est chope, c'est vu.
C'est pub L'Oréal, je te dis.
C'est un blog qui marche bien, je pense. Et 7 490 000.
Mais non, parce que le mot pic est dans le dictionnaire en France, alors que Raikkonen, ça s'y trouve pas, quoi. Je sais pas, et tout d'un coup, il prie un Raikkonen à glace et tu as son adversaire. Non, par contre, tu dis un pic à glace.
Il pourrait le dire. Voilà.
Non, mais c'est tout de même étonnant, ouais, de voir que les résultats, même qu'on dit de pages et des résultats sur Google, sont pas forcément influencés par les résultats actuels et vraiment par la notoriété. On se rend compte, bah oui, voilà, que c'est plus une notoriété de la personne qui est poussée que réellement ses résultats.
Mais c'est juste parce que voilà, si tu mets Fernando Alonso, il y a tous les mecs qui s'appellent Fernando et tous les mecs qui s'appellent Alonso. Des Alonso, il y en a un paquet. Il y a Jérôme Alonso, il y a Isabelle.
Ouais, mais c'est avec un Z déjà, donc c'est toi.
Voilà. Alors que Sébastien Vettel, déjà, les Sébastien, on n'en connaît pas beaucoup. Puis des Vettel, enfin, moi j'en connais qu'un. Donc voilà. Pareil pour Senna, non, Senna, t'as même... Bruno Senna, t'as Ayrton Senna.
Non,
t'as Starak. Ah, mais c'est non. Ça aussi, non, mais sincèrement, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, quoi.
Non, chaque chiffre a été fait à partir du prénom et du nom de la personne.
Oui, non, mais.
Si je tape simplement Alonso, tu devrais avoir à peu près 150 millions
de dans Google, tu cherches Fernando Alonso, il va chercher toutes les pages où, sur lesquelles il y a soit le mot Fernando, soit le mot Alonso, soit les deux. Il va te mettre en premier dans les résultats ceux où il y a les deux, et généralement l'un à côté de l'autre, puis au fur et à mesure à des résultats, vers les 20 millions, il va te mettre ceux où il y a juste Fernando.
Peut-être.
C'est une bataille de chiffres, ça n'intéresse
pas. C'est pas cela auquel s'intéressent les vrais fans de Formule 1.
C'est la preuve qu'on va le seigneur, on va leur laisser prendre les points, d'accord? Mais que, mine de rien, ce chiffre-là, il est un peu pourri.
Du moment qu'on ait gagné, tu vois, après, je suis d'accord.
On a gagné!
Donc ça fait même 5 à 2, Shinji. On n'a pas découvert dans les délais de 5 minutes, donc vous marquez un point. Donc ça fait 5 à 2. On est seigneur. Nous, on ne cherche pas à gruger les gens. Quand on dit quelque chose, on y reste fixé.
Non, mais je compatis. Je l'entends glisser, cette petite larme au coin de l'œil de Lino, là. Je compatis.
Alors, messieurs, s'il nous reste un tout petit peu de temps, il nous en reste pas beaucoup, on va passer aux questions du répondeur du SAV avec un jingle que voici.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors, nous vous rappelons que pour le répondeur du SAV, hein, vous pouvez nous envoyer vos questions sur répondeur@savf1.fr sur n'importe quel sujet, si vous voulez avoir notre opinion sur un débat ou voilà, vous voudriez sur lequel on se prononce, ou juste pour avoir des questions techniques. On a eu 3 messages, voilà, on va voir si on peut tous les traiter. Je vais vous lire le premier message, le premier mail qui nous vient de Jean A. de Gravier-sur-Saône, qui est le suivant. Bonjour à toute l'équipe, je suis très heureux que le SAV de la F1 soit devenu hebdomadaire et que vous ayez choisi les chroniqueurs d'une telle qualité. Je dois avouer que j'ai été enchanté que vous ayez choisi Steph Core. C'est de la famille Steph. On a dit Steph.
Oui, bonjour maman. Bonjour maman.
Jean, maman.
On ne demande pas aux parents d'écrire des mails. Comme chroniqueur, car depuis je suis le SAV de la F1, j'ai toujours apprécié blablabla. Bon, d'accord. Bon, trêve de bavardage, voici ma question. Depuis que je suis la F1, j'entends plein d'acronymes qui semblent avoir ou non des rôles importants, mais dont on ignore la fonction qu'elles ont exactement, comme la FOTA, la FOPA, la FISA ou la FOCA, etc. Pourriez-vous me dire quel est ou a été le rôle de chacune et nous donner une idée de l'organigramme de celle encore présente actuellement? Ouh là, dis donc.
Ouh. Il y a HRT aussi.
Alors, HRT, c'est Hispania Racing Team. Ah non, quoi, on peut plus dire Hispania Racing Team. Parce que maintenant, ils disent, voilà, maintenant, c'est HRT. Voilà.
Ah, voilà. C'est juste HRT, oui.
Eh ben, déjà, bonjour Jean. Bon, bonjour, le papa.
Bonjour. Bonsoir.
Bonjour. Bonjour papa. Ça va?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que FISA, c'est l'ancien nom de la FIA, grosso modo. Hein.
Même si... Oui, c'est la Fédération Internationale du Sport Automobile. Voilà. Qui en fait c'est lors d'élection de au moment de l'élection de Max Rosset, donc ça doit être 91-92 en fait, a fusionné en fait avec la FIA. Voilà. En fait il y avait la FIA qui
était dirigée par
qui était concernée, voilà, qui était concernée, on va dire, par tout ce qui était automobile de route, et la FISA pour le sport automobile. Tout ça était réuni dans la FIA.
Alors pareil, dans les acronymes, il y a aussi FOCA et FOTA. Bah la FOCA, c'est l'ancienne FOTA. La FOCA, c'est Formula One Constructor Association. Donc ça, c'est début des années 80. C'est les grands constructeurs Renault, Ferrari qui étaient réunis en association. Ce qui a donné lieu à une guerre entre la FOCA et la FISA dans les années 80. Et la FOTA, bah, c'est la Formula One Team Association, qui aujourd'hui se réduit à peau de chagrin, puisque Ferrari a quitté la FOTA, puisque Red Bull a quitté la FOTA, puisque Sauber a quitté la FOTA, Toro Rosso, Spirit Race a quitté la FOTA, HRT n'y est plus depuis longtemps, et Lotus hésite. Voilà. Ouais. Et la FOPA, alors là, la FOPA, je ne sais pas ce que c'est. C'est un FOPA. La Formula One Player Association, la Formula One.
Promotion Association, je crois que c'est la première organisation que a mis en place Bernie Ecclestone dans les années 70 pour la promotion qui est devenue la FOM. Aujourd'hui, c'est la FOM, mais je crois que la toute première version qui a été avant la FOM, c'était la FOPA.
C'est la FOM des années 80.
Ouais, voilà.
FOM des années 80, juste FOM.
Donc, il gère toute la partie commerciale de la F1.
Les droits de la F1. Et dans les acronymes, tu parlais tout à l'heure de l'association des pilotes, qui est désormais la GPDA.
Grand Prix Driver Association, qui est dirigée par
De la Rosa.
Retour après le départ de Barrichello. Et avant, c'était.
Mille Lavito. Avant
c'était. Je sais plus si
ça. Je crois que ça a gardé le même nom à peu près. Hein.
Parce que ça.
Et ça a été recréé après 94, justement.
C'est-à-dire qu'il y a une époque où ça a disparu, et puis c'est revenu effectivement après la mort. Ok, on a peut-être le temps de prendre une deuxième. On va prendre celle de Caroline, de Villedieu-les-Poêles. Non, mais rigolez pas, c'est un vrai nom de deal. Oui. Alors, bonjour Caroline. Salut à toute l'équipe du SAV, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Voilà. C'est pas de ta famille, Steph, quoi.
Non, une cousine éloignée, je sais pas, peut-être.
Je viens de lire sur fanf1.com que Ferrari allait rouler avec une Ferrari de 2010 à Suzuka. Les essais ne sont-ils pourtant pas interdits? Merci de vos éclaircissements. Bah, ça tombe bien, j'ai regardé aujourd'hui pour l'article, puisque c'est moi qui ai écrit l'article de Mika Salo. Et, c'est bordel le règlement, en fait. Donc, en fait, techniquement. C'est compliqué. Techniquement, il y a un article qui s'appelle l'article 22.1 du règlement qui définit ce que la FIA entend par des essais. C'est-à-dire, sont considérés comme essais privés toute séance mettant en jeu un pilote participant au championnat, donc soit titulaire, soit troisième pilote, avec une voiture correspondant à la réglementation de la saison en cours, de la saison passée ou des saisons à venir. C'est-à-dire que techniquement, en dehors des séances autorisées par la FIA, les écuries n'ont pas le droit de faire rouler la voiture 2013 pendant l'intersaison, ils n'ont pas le droit de faire rouler la voiture 2012 pendant l'intersaison, et ils n'ont pas le droit de faire rouler la voiture 2011. Ferrari à Suzuka va faire rouler la voiture 2010, donc ça, ils ont le droit, puisque c'est une voiture...
C'est la plus récente
Ils ont le droit, d'ailleurs, ils avaient roulé en 2009, enfin, en septembre, ils avaient roulé avec la voiture de 2009 pour comparer Perez et comment s'appelle et Bianchi.
Bianchi.
Voilà. Alors maintenant, il y a l'article 22.4 qui, alors là, définit quand peuvent avoir lieu les essais. Sauf que là, on parle bien de Ferrari qui, de toute façon, dans son interprétation du règlement, aujourd'hui, ne fait pas des essais. Au sens où la FIA l'entend, elle ne fait pas des essais avec Mika Salo. Ouais. Elle fait, on sait pas quoi. Mais en tout cas, c'est pas...
Mika Salo, d'ailleurs, ne le sait pas.
Mais Mika Salo ne le sait pas.
Apparemment, c'est important.
Et donc,
mais il sait pas.
L'article 22.4, lui, il définit, si jamais vous roulez avec une voiture de l'année ou de l'année passée ou de l'année future, etc., il définit des cadres précis, qui sont de mémoire de ce que j'ai lu aujourd'hui en regardant le règlement. Donc, il y a une séance qui est prévue de 3 jours, c'est celle du Mugello, qui est prévue. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, il n'y a plus d'essais. À partir de la semaine qui précède le premier Grand Prix jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Donc théoriquement, là, à partir de lundi, il n'y a plus le droit de faire d'essais privés.
Ce qui était encore le cas l'an dernier. Voilà. Voilà, c'était l'interdiction des essais privés en cours de saison.
Et donc, cette année, il y a plusieurs exceptions. Il y a une séance de 3 jours au Mugello début mai. Donc ça, c'est décidé par la FIA en accord avec les équipes, qui a été négociée et réintroduite cette année. Il y a une autre séance qui est prévue en, généralement en fin d'année, mais bon, il n'y a pas de date dans le règlement qui est définie, avec des jeunes pilotes. Voilà, donc c'est les rookies d'aise généralement d'Abu Dhabi. Enfin, ça s'est disputé qu'à Abu Dhabi. Et en plus, les écuries disposent de 4 journées pour faire des essais en ligne droite. Et il y a la clause Massa. C'est d'ailleurs la clause Schumacher avant, oui. Qui est que si on veut remplacer un pilote titulaire pour une raison quelconque par un pilote qui n'a pas fait de Formule 1 dans les 2 saisons précédentes, on peut bénéficier d'une journée d'essai. Sauf que si jamais vous ne remplacez, ça pourrait être le truc, tu vois, tu fais des essais en rappelant genre Mika Salo, tu vois, tu fais ouais. Revenir, il fait des essais et voilà. Mais ça marchera pas parce que si jamais tu ne remplaces pas le pilote effectivement derrière, la journée t'est décomptée sur le total des essais de l'année suivante. Voilà. Mais ça concerne pas Ferrari puisque techniquement selon l'article 22.1, Ferrari ne fait pas d'essais privés. Ferrari met une voiture sur une piste. Mais il faut pas d'essais privés. Voilà. Et donc bon, il y avait une autre question, mais on y répondra la semaine prochaine puisqu'on est un peu pressé par le temps. Il y a une dernière question et on terminera chaque émission par cette question-là qui sera la question inutile du SAV. C'est une question que jamais personne n'a osé se poser un jour.
Que jamais personne ne
voilà,
se posera.
Sans doute. Sauf le SAV de la F1, puisque oui, nous avons décidé d'ouvrir des débats profonds. À chaque émission, vous aurez le droit à ce genre de questions. Enfin, à chaque émission.
Ça sera une
en compagnie de nos chroniqueurs. Et avec cette question essentielle, messieurs, nous aimerions avoir votre avis, nous tous, sur quel super-héros aimeriez-vous voir au volant d'une Formule 1?
Eh bien, écoute, moi, je vais clore le débat immédiatement, parce que c'est une évidence même. S'il y a un super-héros qui doit venir en F1, c'est Batman. Parce qu'il a tout. On sait très bien qu'il sait piloter des voitures. Et surtout, on sait tous que c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, il a du pognon. Il peut donc financer une écurie de F1. C'est donc une évidence, c'est Batman.
Mais moi, j'ai envie de dire Mario. C'est pas un super héros, mais c'est Super Mario, quand même. Ah bah, tu vois, Mario, il pourrait mettre des options, tu vois. Enfin, alors, il faudrait peut-être pas forcément qu'il les pilote, mais en tout cas, qu'il les conçoive, les voitures. Tu vois, avec des champignons, avec des éclairs, des pots de banane et tout. Ça mettrait du piquant dans les courses.
Moi, contrairement, je vais à un Flash, juste à pousser la bagnole, il la met au point mort, et c'est bon, quoi. Il vous a fait les 70 tours en 3 secondes de dixième. Donc, sans consommer une goutte d'essence. Mais, tout ça pour l'écologie.
Mais Steph Corr, il est déjà en Formule 1, il s'appelle Sébastien Vettel. Et bientôt, il aura sa combinaison toute rouge.
Bah, pas si ça continue
non,
comme
c'est
ça.
Vrai. Hein? S'il te plaît, Sébastien, pas de mon reste tout bleu.
Il est pas fou non plus, hein. Si ça tourne pas, ouais, ça m'étonnerait qu'il y aille, mais après, en autre super-héros, je vois pas trop. Ah, Hulk, c'est peut-être un peu trop étroit.
Non, ouais, c'est. Nigel Mansell a déjà essayé, c'est pas
oui. Ah, le surfeur d'argent.
Ouf.
Ah, ouais, non.
Ça serait élégant, moi je dis que.
J'aurais le surfeur d'argent prendre... dans une flèche d'argent. Eh, ça serait beau.
Moi, j'ai fait.
Il va se preuve, alors d'abord, il va passer ses 4 heures, mais puis ça va être moche.
Moi, j'aurais pris un super-héros français, un Garou-Garou. Tu vois, à l'époque de Senna, ça aurait pu être utile.
Je sais même pas qui c'est. Pour ceux qui...
Ah ouais. Ah, ouais, pourtant, c'est une sale vanne. Mais pour ceux qui connaissent, Garou-Garou, c'est un héros de livre. Je me rappelle plus le nom de l'auteur. Et en fin de compte, c'est une personne lambda qui acquiert le pouvoir. Non, il acquiert le pouvoir de traverser les murs.
Ah, d'accord.
Ah non, c'est pour ça. Ouais, non, c'est peut-être une référence. Faudra couper, hein.
Vous êtes
non,
une on va la garder. Un peu trop profond.
Pour ceux qui connaissent Garou-Garou, mais bon. Mais c'est un film avec Bourvil, vous l'avez jamais vu?
Ah, oui.
Ah oui. Oh, purée.
Ouais. Là, je l'appelle le Pasturaï.
Voilà, pareil.
Ah, ben voilà. Et quand il passait les murs, il signait avec Garou-Garou.
Ah.
Garou-Garou, le Pasturaï.
Non, mais ça, c'est pour et Nelson Piquet, ça.
Bon, Superman, on évite parce qu'il mettra son slip sur sa combinaison, c'est pas terrible.
Ouais. De toute façon, Superman, bon, enfin bon. Et puis, sa chute de cheval, il est quand même moins performant.
Ah, mais il est déjà sur 4 roues, hein. Il a des...
Non, on va arrêter là, Steph.
Oui, parce que bon.
Oui. Oui, c'est clair.
Parce que bon, d'accord, Intouchable a fait des gros scores, mais je pense pas qu'on puisse atteindre le même score, tu vois.
Puis bon, il va être dur à aller chercher maintenant.
Oui. Bon bah
non, après, on... non, et moi j'aurais bien vu, ouais, c'était une Wonder Woman. Ça, ça m'aurait pas déplu.
Ouais, mais elle est déjà en Nationwide. C'est vrai que quand t'as dit qu'elle attaque en Wonder Woman, moi, je demande à voir.
Ouais, ouais, c'est clair.
Ah, quand t'as fait ouais, mieux qu'une quand t'as fait la toupie ouais. comme ça dans une cabine téléphonique, waouh.
Dans un cockpit.
Mais c'est déjà ce qu'elle fait, en fait. Mais le problème, c'est qu'elle a pas compris, c'est que quand elle fait la toupie, la voiture tourne avec.
Mesdames, ils s'excusent.
Bien, vous êtes bienvenues, mesdemoiselles.
Ah, mais attends, on l'a déjà, non? Lex Luthor, on l'a pas, petit avec des lunettes,
et
là,
mesquin,
non?
Ouais.
Ouais, mesquin, ouais.
Je crois, mes yeux, que sur cette phrase, on peut se quitter en rappelant que vous avez encore 2 semaines pour participer au concours Top Proposition, dont je vous rappelle la question, qui était de savoir si on prend en compte tous les champions du monde qui ont une tribune à leur nom autour du circuit de Melbourne, combien obtient-on de titres au total? Pour répondre, vous nous envoyez donc la réponse à cette question, plus une question sur la Malaisie ou le Grand Prix de Malaisie, à l'adresse concours@savf1.fr. Voilà, on effectuera un tirage au sort à la fin de l'année, comme d'habitude.
L'adresse du répondeur,
on
peut
peut-être... Le répondeur, on vous la redonne. Hein, si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas, c'est répondeur@savf1.fr. Et puis c'est tout.
C'est déjà beaucoup.
Oui, oui, ouais.
Mais par contre, Fab, je tenais à voir, préciser, même s'il va pas l'oser, ou je sais pas si c'est le lieu de le faire, mais donner quand même un petit coup de projo sur son blog, que c'est la fin des AECO. La F1 des AECO.
Ouais, il est pas très entretenu, ce blog.
Oui, non, mais il vaut le coup d'être lu pour tous les passionnés de F1 qui aiment prendre les choses quand même au second degré. Ça vaut vraiment le coup d'être découvert.
Bah, c'est gentil en tout cas. Mais je fais pas ma pub, hein, c'est pas...
Ah non, tu... Non.
Voilà.
Pas... Ouais, pour...
Non
mais tu allez, connais le virement. Hein.
On va aussi voilà. En profiter hein, pour faire la pub pour le site du SAV de la F1, savf1.fr, voilà, où vous retrouverez notamment toutes nos anciennes émissions. Et puis, bien évidemment, fanf1.com, où vous continuez de nous suivre toujours plus nombreux. Nous vous en remercions. Et voilà, c'est le moment, messieurs, de se dire au revoir, en espérant nous avons passé une bonne soirée.
Ah,
pour une émission un peu plus longue.
Excellent.
On vous rassure, pour le moment, on se cale un petit peu sur cette émission. Voilà, c'est la bêta test. On aura une deuxième la semaine prochaine, une deuxième bêta test. Et puis après, voilà, après la Malaisie, puisqu'on se retrouvera après la Malaisie pour ce type d'émission, ça sera des émissions où, voilà, on aura tout travaillé, tout étudié. Allez, salut à tous et bonne semaine. À mercredi prochain.
Merci encore. Au revoir. Au revoir.